Re-bienvenue au Voyeur de vue, une émission pour les regardeurs de vue devant l'éternel. Et un de ces voyeurs de vue-là est moi-même, Yannick.
Et l'autre, c'est moi, Alex.
Cette semaine au Voyeur de vue, on va parler de nos films habituels. Comme vous le savez, les Voyeurs de vue, c'est une émission où on a un programme principal à chaque semaine. Et puis, ce programme principal-là est lié à celui de la semaine précédente, soit par le lien du réalisateur, du scénariste ou d'un acteur ou d'une actrice. La semaine passée, avec le cher Nicolas Krief, on a écouté le merveilleux Notting Hill. Et cette semaine, le film dont on va parler, c'est Bridget Jones' Diary, qui nous est amené par le pont qui est Hugh Grant.
Et aussi Richard Curtis, c'est le premier double pont, en fait. Je pensais à ça en m'emmenant.
C'est vrai?
Parce que, justement, Marie-Lise, ma blonde, elle m'a dit « C'est quoi qui vous amène à Bridget Jones? » Puis là, j'étais comme « En fait, je me souviens pas si on avait dit Hugh Grant ou Richard Curtis, mais les deux. »
Oui, les deux, absolument. Fait que c'est ça, un double pont cette semaine. Très content de ça. Mais avant...
On attend toujours notre troisième lien, par contre.
Ah ouais, écoute, moi là...
Je t'ai carré de payer,
puis tu sais, je vois sur beaucoup de groupes Facebook qui parlent du troisième lien, mais ça n'a pas rapport au voyeur de vue. Moi, je pense tout le temps qu'ils parlent de ça. Donc, c'est comme toute une affaire de Québec, mais pas comme du cinéma de cinq fois ou rien
c'est
de
vrai,
ça.
C'est vrai, hein? Mais j'imagine que ça pourrait être intéressant pour le futur des voyeurs de vue, là, essayer de faire le plus de liens possible, le plus de ponts possible. Mm-hmm. Ça doit être possible de faire un 4 ponts là, qui sont pas des suites. T'sais.
Ouais, c'est ça, parce que c'est facile de le faire avec une suite. Ouais, mais faire un 4 ponts qui n'est pas une suite, ça pourrait être nice. Là. Ouais, c'est un bon défi à entrevoir. Mais avant de ça, on va y aller avec les films qu'on a vus cette semaine et quelques autres petites rubriques.
Oui.
Je pense qu'on va commencer avec un nouveau segment.
C'est-tu un nouveau segment ou c'est juste un segment qui avait été en sourdine pendant quelques temps?
En sourdine pendant quelques temps. On a parlé de la semaine passée. C'est quelque chose qui n'est jamais loin de nos cœurs. Puis là, je pense qu'il faut officiellement lui donner un nom. Puis à chaque fois que ça va revenir, on va y aller avec peut-être même un indicatif sonore. C'est le moment de Ben Watch. Où ce que c'est qu'on discute de l'actualité de Ben Affleck, mm-hmm. de l'afflectualité, en fait.
Oui,
ici.
C'est ça. Et j'aime ton cœur, ton sang de sang,
l'afflectualité. Ouais, chanté par Affleck Red, bien
sûr.
Oui,
bien sûr.
L'affaire qui est importante, OK, on a eu le trailer de Duelist. Non, c'est de Last Duel, la semaine passée. Cette semaine, on a bien sûr... Ça a commencé tout de même... Lentement, avec une belle surprise, c'est Jennifer Lopez a fait un post Instagram célébrant son 52e anniversaire. Alors, je suis sur Internet, je regarde ça, je la vois sur ses photos, et sublime, il y en a quatre. Je swipe, quelle est la quatrième photo? Les trois premières photos, c'est elle en maillot de bain sur un yacht. La quatrième photo, elle puis le bon Ben qui s'embrassent, c'est révélé à nouveau, c'est exposé.
Ben, on l'avait vu dans plein de photos de paparazzi, mais ça n'avait pas été acknowledgé par aucun des deux de façon concrète, mettons.
Non, c'était pas revenu on main, sur le main feed. Mm-hmm. Mais là, puis là, au début, OK, y a ça, c'est cool. Quelqu'un d'autre sur Instagram, quelqu'un d'autre sur Twitter avait regardé de très près une de ses photos, puis une des photos de Jennifer Lopez en maillot de bain, on voit un bout de photo à droite. On voit un bout de cadre avec une photo dedans, un bout de photo. Quelqu'un sur Internet l'a cherché puis a trouvé une genre de, pas de photo de paparazzi, mais une genre de photo, une vieille photo des années 2000 de Jennifer et Ben sur une moto qui était clairement là. Fait que comme, oh, ça doit être une photo de un cadeau de Ben, cette photo-là de eux sur une moto encadrée pour son 52e anniversaire. Les gens étaient en liesse en ligne. Tout le monde disait comme, Ben, il a fait un cadeau qu'elle aime vraiment, qu'elle connaît vraiment. C'est pas comme A-Rod qui achète un char tandis qu'elle ne conduit jamais. Fait que là, je suis comme, crime, le Ben Tent.
Ouais, t'es plus profond là-dedans que moi parce que ça, je savais pas.
tu vois, c'est ça une affaire que je t'ai pas partagée. Mais une fois que la troisième affaire est arrivée, je trouvais que c'était pas nécessaire. Parce que là, le Ben Tent, le contenu a continué où ce qu'on a comme vu une photo en ligne de Ben qui tapote les fesses de Jennifer Lopez sur le même yacht d'une image qui rappelle le vidéo de Jenny from the Block il y a quelques années. Puis ça, c'est du genre de truc de recontextualisation d'image médiatique et de mime, quelque chose qui me fait plaisir beaucoup parce que juste ça, mais la réaction que j'ai vue de bien des gens est encore meilleur, puis expliquer la magie de Ben Affleck, c'est du monde qui disait comme, il y a juste Ben Affleck qui peut comme tapoter les fesses d'une des plus belles femmes au monde, mais il a tout de même l'air, il a tout de même la face d'un gars qui s'est évadé d'une prison russe. C'est ça la magie de Ben. C'est pour ça qu'on l'aime.
Ouais, tu sais, comme moi j'utilise en communication, puis tu sais, en théorie, communication theory, il y a plein de trucs là à propos de la reproduction d'images, puis la recontextualisation, puis tout ça. Pis c'est vraiment triste que ça n'existait pas en 2007 ou whatever quand j'étais à l'université, parce que j'aurais pu faire un paper là-dessus, tu sais, sur comment Jennifer Lopez et Ben Affleck recontextualisent leur propre image à travers justement, c'est ça, une reproduction. Il y a, tu sais, la mimétique. Mm-hmm. Littéralement, le concept du mime, maintenant qui est devenu commun, c'est une théorie de la des théories de communication. Fait que, bref, en ce moment, je m'en rappelle pas. Mais un jour, je vais vous faire une vraie présentation là-dessus. Là, comme Nicolas a décidé, un sauce 5 à propos de la théorie de communication qui tourne autour de la relation de Ben Affleck et Jennifer Lopez.
Écoute, on a très hâte, mais fait que ça va conclure Ben Watch pour le moment. On a aussi une couple de trailers intéressants, dont deux qui ont popé comme drette aujourd'hui.
Mm-hmm.
Premièrement, on a eu le trailer du nouveau film de Paul Schrader, écrit et réalisé par Paul Schrader, The Card Counter, avec Oscar Isaac, William Dafoe, dans un mode William Dafoe en masse,
Tiffany Haddish
aussi, puis Sheridan.
Ty Sheridan, qui est rendu un adulte, là, genre straight up, genre maintenant un adulte avec une coupe de cheveux très très pandémique, là, je te dis.
Ouais, ouais, c'est comme une fois qu'ils ont décidé de pas lui couper les cheveux pour qu'il ait l'air d'une star de cinéma. Ouais. Il a juste l'air d'un gars normal, un peu burn-out de Sandash.
Il y a un peu des cheveux de Fran Lebowitz, là. Tu sais, c'est qui Fran Lebowitz, là? Mm-hmm. Il y a un peu des cheveux comme elle. Fait qu'en tout cas, ben c'est ça, Paul Schrader, qui son dernier film qui était First Reformed, qui était comme vraiment une espèce de retour en force pour Paul Schrader, qui était surtout connu à l'époque, ben jadis comme scénariste, qui a scénarisé Taxi Driver, Rolling Thunder, tu sais, qui a réalisé des films comme Blue Collar. En tout cas, fait que c'est un réalisateur, jamais un réalisateur hyper mainstream, je te dirais. Mais tu sais, très connu, puis très, très bien en vue. Puis depuis First Reformed, tu sais, First Reformed l'a vraiment aidé. Parce que son film avant First Reformed, les deux films avant First Reformed de Paul Schrader, je crois, avaient Nicolas Cage dedans.
OK.
Fait que tu sais...
Puis pas Nicolas Cage de pig, mettons. Là.
Non, mais un peu plus, mettons. Mais tu sais, quand même... en tout cas, tu sais, il y a eu du rough stuff like Paul Schrader. C'est fait mettre dehors du prequel de L'Exorciste, mettons.
Mm-hmm.
C'est fait remplacer par Rennie Harlan, ce qui, ça, c'est rough en esti de se faire remplacer par Rennie Harlan. Mais tu sais, fait que bref, puis c'est ça. Fait que là, à cause du succès populaire, et pas ben, critique et pas tant populaire, mais tu sais, First Reform est quand même un film qui a eu une bonne vie, là, puis
ouais.
Donc on a beaucoup parlé.
Ouais, c'est ça, beaucoup de heat quand c'est sorti.
Exact.
Pendant,
puis qui est un vraiment bon film que j'aime vraiment beaucoup, qui était mon film de l'année quand c'est sorti, je crois, 2017. Donc on a pu utiliser ça pour aller chercher Oscar Isaac et Tiffany Haddish et Willem Dafoe, moins, parce qu'il a fait vraiment beaucoup de films avec Willem Dafoe. Je pense que Willem Dafoe, c'est un de ses boys, là, tu sais. Il va toujours dire oui. Mais donc, c'est un film de gambler. Oscar Isaac, qui est un dude qui sort de prison et qui se met à faire compter des cartes dans les casinos. Donc, une chose que tu ne devrais pas faire, car c'est tricher et ça peut te mettre dans la marde. Tiffany Haddish, qui semble trouver son stratagème et devenir un peu sa partenaire...
Sa parraine commerciale.
Exact. Et là, il y a un peu des manigances des chiens.
Ces chiens-là ne sont pas d'accord avec la tricherie au casino.
Il y a un peu des manigances de... Bon, Willem Dafoe sort un peu de nulle part, semble avoir été un gardien de prison à l'époque où Oscar Isaac était en prison, qui revient chercher ce qui lui est dû, ou quelque chose du genre. Ça a l'air plutôt bon. Ça a l'air un peu plus... le trailer est un peu tarabiscoté, là, genre tourné en film d'action. Là. Ça a l'air, le film semble vouloir vendre, ou le trailer semble vouloir vendre un film d'action qu'on sait que ça sera pas.
Ouais, un trailer plus intense.
C'est comme un film de Jason Statham, genre.
Ouais.
Ça sera pas ça, c'est sûr, ça sera pas ça. Mais moi, je suis assez stoked, là. J'étais comme, OK, ouais, je vais toujours regarder des films de Paul Schrader, peu importe c'est quoi, là. Mais des fois, j'y arrive plus à reculons que ça.
Ben, je trouve que ça a l'air vraiment cool. Aussi, une affaire comme... L'affaire qui m'a marqué, c'est que le genre de rôle, puisque Oscar Isaac fait là-dedans, je sais... Moi, l'affaire qui m'a frappé, c'est... Je sais que t'as pas regardé Mad Men, mais quand Mad Men... c'est terminé, je pensais que c'est ça que John Hamm allait faire au cinéma.
Des rôles comme ça,
parce que c'est genre le genre comme d'intensité, parfois juste sur le bord d'être bouillonnant, mais tu sais qu'il y a plein d'affaires qui se passent en dessous, puis tu sais pas c'est quoi, puis en tout cas, bref, moi ça m'a vraiment intrigué de... Au début du trailer, tu le vois, il va dans une chambre d'hôtel, puis il recouvre tout ce qu'il y a dans la chambre d'hôtel avec un drap blanc, puis là, il attache, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Intriguant, mystérieux, opaque. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est le fun, un trailer, il était comme immédiatement... Qui est le card counter?
Ouais.
Fait que ça, j'ai bien aimé ça.
Ça là aussi, tu sais, Paul Schrader, on peut... Paul Schrader était critique de cinéma. Puis aussi, il était calviniste. Je sais pas si ça se traduit, mais...
Il aime ça pisser sur les logos Ford.
Exact. Non, mais il a grandi dans un environnement extrêmement religieux. Donc, il n'a pas vu de film avant qu'il ait 18 ou 19 ans. Puis après ça, il est devenu critique de cinéma. Puis il trippait beaucoup sur son livre. Il a écrit un livre quand il était sur Dreyer, Ozu, puis Bresson. Tu sais, qui sont trois réalisateurs assez secs, mettons. Tu sais, c'est pas... C'est pas du De Palma, là, mettons. Puis tu le vois, tu sais, il a souvent refait après ça du Bresson dans ses films, comme American Gigolo, mettons, ça c'est lui qui l'a réalisé, qui est un film avec Richard Gere qui est très stylisé puis très comme bressonien, là, pour essayer de dire. Puis là, genre, on le voit un peu dans ça aussi, tu sais, il y a des teintes un peu justement d'American Gigolo dans Card Counter, puis ça c'est toujours intéressant parce que Paul Schrader est quand même un réalisateur qui aime ça se répéter. Mais de façon comme intéressante. Pas juste, il aime ça se répéter comme qu'est-ce que le monde accuse Martin Scorsese de juste faire des films violents avec des hommes dedans, là, genre. Tu sais, il répète les thèmes, puis un peu comme les milieux dans lesquels ces films se passent. Fait que ça a l'air intéressant. J'ai hâte de le voir. Ça sort quand même bientôt, je pense, le 10 septembre. Ça se peut-tu?
Oui, il me semble qu'il avait dit que, ben, c'est ça, là, c'était en septembre. Mm-hmm. Mais là, on va parler d'un autre film qui, lui, va sortir au Thanksgiving américain.
Oui.
On a eu le nouveau trailer de Ghostbusters Afterlife qui, je sais pas s'il y a quelque chose de honnête ou de triste dans des titres comme ça. Comme, tu sais, Ghostbusters, c'est comme mort, mais là, on essaye de la ramener. C'est de la même façon que, tu sais, Batman vs Superman, Dawn of Justice, j'ai toujours trouvé comme, quoi? Ça peut même pas se dire... C'est un titre qui dit même pas comme « Voici ce film-là, il est cool. » C'est comme « Les prochains vont être bons. » Puis ça, le titre de Ghostbusters Afterlife, c'est comme « Ceci est comme mort, mais peut-être qu'il y a une vie après la mort. » Hein, les amis?
Ouais, peut-être.
Fait que là, c'est un jeu de Ghostbusters qui... j'aime le premier Ghostbusters, puis j'ai des souvenirs de jouer aux Ghostbusters quand j'étais jeune. Le dessin animé, je le trouvais vraiment cool. Les designs sont super cool. Mais c'est pas une affection que j'ai amenée avec moi, que j'ai gardée avec moi dans la vie, comme d'autres l'ont fait. Moi, par exemple, tu sais, aussitôt que j'ai aimé Back to the Future quand j'étais jeune, j'ai continué à aimer Back to the Future. Mais Ghostbusters, c'est pas resté avec moi comme, tu sais, d'autres mondes. Comme si, mettons, Benoît, qui vient de l'émission, Benoît Mercier, tu sais, qui est l'émission Satanin, il adore les Ghostbusters.
Dom Massy aussi, tu sais, dans la podosphère québécoise, c'est très représenté là, comme film que les gens adorent.
Les gens adorent, oui, c'est ça. Puis beaucoup de monde sont hype. Puis de ce que j'ai vu de réaction, c'est comme beaucoup de monde sont contents de ce trailer-là, sont vraiment heureux. Tu sais, on a droit à un trailer qui est essentiellement, qui est très... c'est très Force Awakens, tu vois, comme de la petite fille et le petit gars de Egon Spengler qui ont déménagé dans le Midwest américain. T'as une grosse vibe, on n'invente rien, là, ça fait... Il y a une vibe Stranger Things.
Le kid de Stranger Things est un des enfants.
Ouais, Finn Wolfhard. On a Paul Rudd qui semble être le beau Rick Moranis de cette version-là, qui va être le Louis, le gars un peu dépassé par les événements. Puis ça, comme je disais, c'est vraiment à la sauce de Force Awakens de rappelez-vous ces personnages mythiques incroyables-là qu'étaient les Ghostbusters. Puis... Là, t'as les jeunes qui sont... tu vois que l'histoire... Il va y avoir un mal qui va se réveiller. Puis là, les jeunes vont être appelés à Answer the Call, pour citer l'autre film de Ghostbusters. Devenir des Ghostbusters eux-mêmes et devenir ces héros-là mythiques. Comme j'ai dit, moi, ce film-là vient vraiment pas me chercher. Ce trailer-là a marché tout de même un peu pour moi. D'une façon, j'ai comme, ah, cool! Ça a marché dans le moment, mais après, je suis comme... Les Ghostbusters, c'était des crottés, là. Tu sais, comme...
Ouais.
c'est l'affaire que je trouve. Les Ghostbusters, c'était comme une comédie horreur, science-fiction, vraiment le fun. Mais avec le si le trailer d'Afterlife, tu vas être comme, hey, je vais aller voir c'est quoi Ghostbusters.
Ouais, tu vas être extrêmement déçu.
tu vas être comme, hein? C'est comme une comédie, c'est comme des fuck-alls.
Ouais.
Tu sais, c'est vraiment cool, c'est bon, c'est bien fait. Mais c'est vraiment étrange.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, je comprends la vénération d'une franchise, des vieilles affaires, puis c'est comme, à cette heure, là, les studios, il y a bien des studios qui veulent prendre de chance, qui sont comme, traite ça comme si c'est une affaire à vénérer, puis là, les fans qui chialent sur la tête habituellement vont être contents.
Reste
à voir s'ils vont être contents avec, on dirait que le héros principal va être une jeune fille,
mm-hmm.
Ça va sortir. Mais, en tout cas, tu sais, j'ai trouvé ça bien, mais en même temps, je suis comme, Ghostbusters, c'était pas ça. L'affaire que je trouve qui est potentiellement intéressante, par exemple, du film, c'est que, tu sais, pas que je capote sur Jason Reitman, mais, tu sais, Ivan Reitman, c'est son père, tu sais, c'est son père qui a fait Ghostbusters.
Mm-hmm.
Puis on dirait qu'il y a une intrigue de comment que la fille de Egon Spengler dit que son père est un petit peu un fuck-all.
Ouais, joué par Carrie Coon.
Ouais, fait que le fait qu'un fils parle de l'œuvre de son père, puis qu'on dirait qu'il y a une partie de l'histoire qui était comme un père qui était fuck-all, je suis comme, ah, OK, il y a quelque chose d'intéressant, ouais, là. Non, mais...
tu sais, moi, Jason Reitman, j'ai vu presque tous ses films parce que, tu sais, c'est un habitué de des festivals, mettons, là.
Mm-hmm.
Je pense que Jason Reitman, en fait, un bon film, c'est Young Adult. C'est vraiment très bon.
Ouais, c'est bon.
Puis, après ça, tout le reste, c'est comme, des fois, c'est intéressant. Tully, c'est intéressant, mais c'est pas très bon. Puis, il y a des affaires qui sont vraiment de la petite boîte, comme Men, Women and Children, ou le dernier, là, The Front Runner, là, avec Hugh Jackman. Là,
qui est passé, genre, straight sur HBO. Là.
Ah non, ça, c'était un autre... Ben,
non, il y a une autre affaire avec Hugh Jackman.
Bad Education. Okay, ouais, c'est quand même bien.
Ouais.
Front Runner, c'est fucking inutile. Mais le problème avec, c'est ça, avec Jason Reitman, je pense, c'est que il fait beaucoup ou souvent de la pastiche vague. Fait que tu sais, comme Front Runner, c'est comme ah ouais, ok, je fais du Altman, tu sais. Mais sans nécessairement, tu sais, c'est très esthétique comme pastiche. Puis on s'entend que Altman, mettons, on va prendre Altman comme exemple. Visuellement, il y a pas genre, tu peux pas montrer une shot. Puis dire c'est du Altman comme Wes Anderson, mettons.
Ouais.
Fait que si tu t'es pour aller faire du Altman, tu sais, il faut que tu prennes ça comme tremplin ou que tu y ailles à fond. Je trouve qu'il fait jamais ça. Il fait un peu comme, tu sais, c'est un peu dilettante, là, comme approche, là, tu sais. Il est un peu comme, ah, oh, tu sais, je connais ça, le cinéma, on en met un petit peu, tu sais, une petite saupoudrée de. Fait que là, il a l'air de faire ça avec le travail de son père, ce qui est tout de même intense.
Mm-hmm. Mais, tu sais, il fait ça avec le travail de son père, mais en même temps, ce film-là ne ressemble pas à Ghostbusters. Mm-hmm.
Mais c'est ça, parce que ça ressemble à tous les films de reboot de IP de maintenant, tu sais, qui ne peuvent pas, tu sais, par souci, I guess, de ne pas se faire targuer, de ne pas respecter l'original, sont construits avec juste comme un genre de respect automatique de tout, tu sais.
Ouais.
Puis c'est comme... Tu sais, dans tout classique, là, il y a des affaires que tu peux prendre puis que tu peux laisser.
Mm-hmm.
Même dans des films parfaits, là, tu sais. Il y a des choses que tu peux... Tu sais, qui peuvent facilement être changées, être, tu sais, remplacées par autre chose. Puis ça, j'ai pas... Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est très... Ça a l'air très... Je sais pas. Tu sais, ça a l'air très fait pour flatter dans le sens du poil puis personne va être surpris ou déçu par ça, là, tu sais.
Mm-hmm.
C'est sûr que la réaction que le Ghostbusters de 2016 de Paul Feig a eu a pas aidé ça, là.
Non, ça, c'est clair que ça l'a dirigé. Ça l'a aiguillé ce que probablement ce que ben des franchises comment qu'elle allait être runnée, ou du moins des plus petites franchises comme ça, là.
Mais tu sais, fait que j'en parlerai pas longuement, mais j'ai vu Snake Eyes la semaine passée.
Ouais.
Puis tu sais, Snake Eyes est un film qui traite G.I. Joe avec une irrévérence que les films de Star Wars ont pour les films précédents de Star Wars. T'sais. Puis ça ne peut pas être ça. T'sais.
Non.
Comme déjà, on a vu que... En tout cas, peut-être que c'est une opinion contraire à la majorité du monde, mais t'sais, moi, la révérence que les trois derniers Star Wars ont pour la série d'avant, c'est son plus gros problème.
Ouais. C'est... En fait, il y en a un qui a pas de révérence. Qui a pas de révérence ouais, pour les films avant. Puis,
c'est ça que tout le monde haït. Le monde s'arrache la chemise.
Mais... Ben, du monde en ligne s'arrache la chemise. Je pense pas que dans la vraie vie, le monde s'arrache les chemises tant que ça. Mais oui, continue.
Mais tu sais, moi, c'est ça. Moi, ce que je trouve qui est intéressant à faire après ça avec un IP rendu à cette étape-là, c'est de faire comme Rian Johnson a fait avec Star Wars. Mais c'est controversé et c'est touché. Donc là, c'est sûr, évidemment, les studios ont peur de faire ça. Ils ne voudront pas refaire ça. Fait que j'ai comme l'impression, malheureusement, avant de voir le trailer de Ghostbusters Afterlife, j'avais quand même une bonne idée de quoi ça va avoir l'air. Puis ça a confirmé tout ce que je pensais. Après ça, ça va-tu être correct? Sûrement. Là, ça n'a pas l'air d'une daube, ça n'a pas l'air d'une cochonnerie absolue, mais je peux pas dire que ça a l'air tant... surprenant que ça, mettons.
Mais tu sais, c'est comme... C'est tout de même ça que... À cette heure qu'il y a du rétrofitage puis du recréation de IP, tu sais, comme t'as raison qu'on dirait qu'il aura pu... Même la plus petite IP pourra pu être... Prendre des chances avec. Parce que, tu sais, moi, je reviens toujours au comic book. Mais tu sais... Pour moi, les reboots, ça vient des comics, tu sais. Puis c'est là que j'ai vu le plus de personnages se faire rebooter. Des fois, faire brûler la patente. Tu sais, comme le premier Green Lantern, sa faiblesse, c'était le bois. Puis ses pouvoirs venaient d'une lanterne magique. Puis son ennemi principal était un gars qui utilisait des articles sportifs qui s'appelait le Sportsmaster.
Là, on parle de comme 1927, là. Non, c'est il est très 30. Vieux, là. Ouais, ouais, c'est ça.
Puis, tu sais,
c'est un des premiers, dans le
fond. Ouais, c'est ça. Puis okay. Ça, c'est comme... Puis, tu sais, quand ils ont refait Green Lantern des années 60, le monde de DC, c'est juste comme... C'est-tu quoi? Green Lantern, c'est un esti de bon nom. Puis son pouvoir, visuellement, il est cool. Mais on va juste flusher ça. Aster, c'est quoi qui est cool? OK, il est un pilote d'essai d'avion. Puis, la bague vient d'un extraterrestre. L'extraterrestre s'écrase dans le désert, puis là, lui, il le trouve, puis c'est comme ça qu'il devient un Green Lantern. Puis là, Aster, il se bat juste contre des extraterrestres. C'est fucking sweet. Puis ça, c'est comme ça que c'est devenu le personnage qui a continué. Ça n'existe plus.
Ouais.
C'est comme ils feront plus ça comme au cinéma, essayer de briser. Comme, tu sais, ce qui est arrivé avec Last Jedi, qui est comme le meilleur film de ces trois derniers films de Star Wars, qui est... a tellement brisé le cerveau de du monde bruyant. Ça, puis il y a aussi Ghostbusters 2016.
Ouais.
Ça a tellement brisé le cerveau de certaines personnes qu'ils peuvent plus faire... C'est drôle, tu sais, ce week-end, il y a eu sur Netflix, il y a eu une série animée de He-Man, des Masters of the Universe, qui est faite par Kevin Smith, qui est runnée par Kevin Smith.
Qui est apparemment très bien. Genre.
Oui, c'est très bien. Ouais. C'est, en termes, tu vois que c'est une remouture de quelque chose de qu'ils aiment vraiment le matériel original, puis ils vont chercher des morceaux partout, puis un amour sincère de... Les tanks ont des faces dans ce monde-là, puis c'est cool.
Ouais, OK.
C'est... Quand ils expliquent comme... Eternia, c'était de même, puis il y avait plein de batailles avant, puis les batailles sont illustrées avec des peintures qui sont dans le même style que le packaging de jouets avec. T'sais, c'est, ils savent vraiment bien jouer avec les touches, mais même là, il y a plein de monde sur Internet qui ont déchiré leur chemise parce que ils ont fait comme une grosse twist qui va clairement être, en guillemets, réparé d'ici la fin de la série va sortir. Mais, regarde, je vais le dire direct là, comme Iman meurt à la fin du premier épisode.
OK.
Puis le reste de l'histoire, c'est une de ses sidekicks dans la série des années 80. Elle était la seule du crew à pas savoir son identité secrète de Iman. Puis le reste de la série, c'est elle qui est tout seule maintenant puis qui est devenue une aventurière badass puis qui est comme... Elle est comme... Ça me fait vraiment chier que j'étais la seule à pas le savoir puis à deal avec ça. Puis là, il y a plein... Écoute, tu sais... Si tu te rappelles des figurines de He-Man, il y avait un bonhomme qui avait comme un cyclope qui avait plein d'yeux qui changeaient de forme.
J'avais pas ça. Moi, j'avais Skeletor puis j'avais He-Man. Fait que j'avais pas les autres.
Ben, il y avait Triclops. Puis maintenant, Triclops vénère la technologie parce qu'il n'y a plus de magie à Eternia. Puis c'est Henry Rollins qui fait sa voix.
OK, ouais. Donc,
Henry Rollins qui prêche la technologie partout, c'est merveilleux. Ouais. Mais bref, tu sais, ça, ils ont fait juste une petite twist qui va sans doute être réparée, mais le monde déchire leur chemise pareil. Ouais.
Ben, tu sais, le monde devrait savoir à ce stade-ci que si ton bonhomme connu meurt, il est pas vraiment mort.
Il est pas vraiment mort. Mais bref,
Mais tu sais, pour revenir juste à l'idée là, d'apprendre des changes, je pense que qu'est-ce qui a fucké ça, en fait, c'est même pas le succès des Marvel, mais l'insuccès de ces genres de films-là des années 90. On a parlé de Super Mario.
Ouais, ouais.
Ici, tu sais, Super Mario, puis The Mardi Squad, puis Chapeau Melon et Bottes de Cuir, puis Wild Wild West, qui sont des films qui ont trop pris des gros swings pour le IP qu'il y avait, tu sais. Parce que, tu sais, Wild Wild West, on s'entend, ça sortait comme dans les années 60, début des années 60, que
ouais,
ça
ouais, passait c'est à la télé. C'était noir et blanc, là.
C'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, leur public cible aurait dû être des boomers, mais ils ont fait ça pour les kids qui avaient 11 ans en 1999. Fait que, tu sais, tout le monde s'en calissait.
Mm-hmm.
Même s'ils ont fait beaucoup, ils ont pris beaucoup de chance pour le changer des affaires des boomers, parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, puis les boomers, ils n'allaient pas chialer sur Internet que leur enfance avait été ruinée par un film de Will Smith. T'sais.
Non, non, c'est clair.
Fait que c'est un peu ça le problème. Les années 90 ont comme tout fucké le chien, puis ça reste, tu sais, les dommages collatéraux de ça restent encore.
Oui, oui, oui.
Mais believe you me, la fois que quelqu'un va prendre la chance, puis ça va marcher, là, ça va tout fucker. Là. ça prend juste ça. Là, ça prend quelqu'un qui prend une chance, puis qui décide, on va faire t'sais, le Superman qui est un communiste, là, genre.
Ouais, il faut qu'il fasse Red Sun.
C'est ça. Tu sais, mettons, ils font un enfer de même, puis là, ça pogne full. Là, soudainement, ils vont se garrocher pour faire des affaires révisionnistes. T'sais, c'est comme avec les westerns aussi. C'est ça qui est arrivé avec les westerns dans les années 60. T'sais. Le monde était tanné de voir les mêmes westerns. Les westerns étaient devenus extrêmement codifiés. Fait que là, quand t'avais genre des films où, mettons, le héros tue quelqu'un qui ne méritait pas, le monde esti capotait. Là, ça a fait une affaire. Pendant 15 ans, juste des westerns révisionnistes. Ah, tu sais, les limites du Far West
ne sont pas vrais.
Ne sont pas vrais. Et en réalité, c'est tout des pourris avec des nains pourris qui sentent à marde. Puis ça a fait un esti de run là, à Hollywood, là, mm-hmm. des westerns révisionnistes. Fait que, tu sais, ça va être ça. Mais là, malheureusement, la façon que ça se passe juste financièrement, puis l'investissement qui est mis dans les films, tu sais, puis...
Fait qu'on est... dans le fond, t'as 5 ans dans un film de K2000 où K2000 passe sur du monde puis est tue. Genre.
Exact. Mais j'espère, j'ai hâte de ça. Un film de Carmageddon qui est en fait juste Death Race 2000, mais bon.
Mm.
Qui a été refait dans la forme de Death Race et après ça, qui a eu plein de suites.
Oui, par le bon Paul W.
Ouais, le premier. Mais après ça, c'est des films de Roel Reyner. Et Roel Reyner, tu iras voir... Je vous invite à la maison de googler Roel Reyner, R-O-E-L-R-E-I-N-E. Un doute que tout ce qu'il a fait, c'est des suites. Tu sais, mettons, je sais pas trop, là, Roadhouse 3, puis Death Race 6, puis c'est sa carrière en entier.
Écoute,
c'est incroyable.
Faut que ça se fasse, ces films-là.
Peut-être qu'on devrait faire un Roel Reyner au voir de vue un jour.
Je sais pas comment on peut s'en sortir, par exemple. Une fois qu'on rentre dans le...
Il a fait un film
Reneverse.
Que j'avais commencé à écouter puis je l'ai pas fini. C'est un de ses seuls qui est pas une suite. Puis ça s'appelle Dead in Tombstone. Puis c'est un film où ce que Danny Trejo est un cowboy mort-vivant. Et si je ne m'abuse, Mickey Rourke joue soit Jésus, Dieu ou un ange ou un enfant de même. Puis j'aurais dû le finir, je l'ai pas fini. Fait que, en tout cas, Dead in Tombstone, pas un film que j'ai vu cette semaine.
Ça me semble très prometteur, mais ben, est-ce que tu veux y aller avec un film de ce que tu... Ben, rapidement parler de Snake Eyes, tu veux-tu dire comme 2 minutes sur Snake Eyes?
Ouais, ben je peux en parler rapidement, c'est que c'est...
Premièrement, ça s'est comme écrasé au box-office.
Ouais, ça l'a complètement échoué, puis je comprends pourquoi. Là. Parce que, tu sais, premièrement, moi je connais rien des J.J., j'ai pas vu les films avant, j'avais des bonhommes quand j'étais jeune, mais tu sais, j'étais pas investi dans leur backstory, mettons, là. Puis... Là, si je comprends bien, l'affaire qui est cool de Snake Eyes, c'est que c'est un cool ninja. Il a vraiment un costume badass, puis il parle pas.
Ouais.
Fait que dans ce film-là, Snake Eyes n'a pas de costume, il parle tout le long. C'est un origin story qui est super compliqué pour rien, tu sais, qui est vraiment genre, tu sais, un origin story pas juste pour Snake Eyes, mais pour comme... un univers de G.I. Joe potentiel, exactement de la même façon que Mortal Kombat a été structuré. En fait, ces deux films-là, ça ressemble énormément.
Garde pas bien ça.
Non, c'est ça. Puis moi, Mortal Kombat, j'ai plus aimé ça que Snake Eyes.
Mm-hmm.
Parce que dans Mortal Kombat, t'sais, c'est plus stupide un peu. Genre, il y a des liners puis des affaires. T'sais, c'est un peu plus...
Ça a un esprit que ça se prend pas tant au sérieux, un peu comme les jeux originaux sont un peu wacky. Là.
Ça se prend déjà quand même un peu trop au sérieux pour ce que c'est, mais tu sais, Snake Eyes se prend totalement au sérieux. C'est archi plate. Les scènes d'action, je les ai trouvées quand même bien. Puis sur Internet, le monde était comme, c'est les pires scènes d'action que j'ai jamais vues. Puis je peux pas dire que je suis d'accord avec ça. Je pense que vous oubliez, mettons, le deuxième, là, London Has Fallen. Ça, je pense que c'est les pires scènes d'action que j'ai jamais vues. 80% du film, ça passe dans des catacombes boiteuses. Tu vois jamais rien de ce qui se passe. Tu sais, il y a de ça. Mais il y en a moins. Tu sais, puis il y a des scènes quand même cool. Tu sais, ça joue dans tous les styles de films d'action asiatique, dans le fond. Fait que t'as du kung-fu, t'as du wuxia, t'as du genre de yakuza, t'sais, du Kinji Fukusaku dans ce genre-là. T'as un peu de John Woo. T'sais, ça joue dans toutes ces affaires-là de façon pas très originale.
Ouais.
Puis c'est surtout fucking plate, puis tu t'en calisses, puis il y a plein de personnages, puis t'sais, c'est sans intérêt. C'est vraiment... T'sais, je veux dire, imaginez une version plus plate de Mortal Kombat qui est sortie plus tôt cette année, puis c'est pas mal ça.
Mais tu sais, c'est ça, c'est comme... Moi, je trouve ça vraiment weird. Comme, t'sais, premièrement, je pense que tout le monde, t'sais, comme les nerds, on aime... qui aiment les G.I. Joe, hein, ou qui ont une connaissance face à G.I. Joe. C'est comme, tout le monde trouve que Snake Eyes est cool. Mais l'affaire qui est cool de Snake Eyes, un peu comme Wolverine dans le temps, c'est qu'il est vraiment mystérieux.
Mm-hmm.
Parce qu'il parle jamais. Tu sais pas de quoi il a l'air. Éventuellement, dans les comics, tu réalisais qu'il était comme... Tu savais qu'il était comme défiguré, mais tu le voyais pas. Tu ne savais pas pourquoi. Puis l'affaire qui était intriguante, c'est que le personnage féminin aussi de G.I. Joe, qui était un des personnages principaux, Scarlett, elle sortait avec, ou était liée romantiquement avec, mais tu comprenais pas.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que t'es comme, qu'est-ce qu'elle y trouve? Pourquoi ils sont ensemble?
Elle est dans le film, là, elle est jouée par Samara Weaving, mais elle est presque pas dedans. Tu sais, okay. Comme, tu sais, elle existe, genre, clairement, comme quelqu'un. Je sais pas comment dire, comme Anthony Mackie dans Ant-Man.
Okay, elle fait juste arriver comme le reste de l'univers existe.
Ben ouais, un peu plus que ça, là, mais tu sais, elle est un peu genre son histoire à elle, ça passe dans un autre film. Okay. Elle est dans ce film-là, mais son histoire, ça.
Mais bref, c'est ça, comme tu sais, Snake Eyes, il est comme un genre de il est un épice cool dans le G.I. Joe, mais puis des fois, il avait ses propres storylines. Parce que tu sais, l'affaire que j'avais écrit genre sur des statuts de box-office, tu sais. Si tu veux savoir de quoi un film de G.I. Joe a l'air, ben les films de Fast and the Furious, comme tu sais, je peux en parler rapidement, j'ai réécouté le Fast 5 la semaine passée et j'ai vu Fast 6. Puis Fast 5, vraiment, vraiment fucking bon, là. C'est tout de même vraiment fucking bon, c'est le summum de ces films-là. Mais tu sais, un film de G.I. Joe, c'est supposé être essentiellement ça. C'est des ces gangs-là de personnages qui sont chacun un genre d'archétype ou un personnage vraiment coloré. C'est le fun de les voir ensemble. Et ils font de l'action. Il y en a qui sont bons pour se battre. Il y en a qui ont de l'action véhiculaire avec un véhicule pas possible qui fait shit. Ouais. Et ils se battent contre... l'affaire aussi que, justement, qu'il y a pas... qu'il y a un petit peu dans Fast and the Furious, mais qu'il y a pas, c'est que dans G.I. Joe, les méchants sont aussi le fun que les G.I. Joe, c'est pas plus. Le commandant Cobra, il est super théâtral puis le fun. Destro veut tout le temps, il est en amour avec la baronne, mais il veut tout le temps aussi trahir le commandant Cobra, il sait pas. Puis t'as la collection des sous-lieutenants qui sont tous plus wacky, répréhensibles, cool les uns que les autres. T'as le docteur Mindbender qui a juste l'air d'un gros... T'sais, t'as une collection de bonhommes sadomaso vraiment sick qui ont toutes des gimmicks différentes.
Puis... Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui aurait dû exister dans les années 90.
Oui. Ben, en fait, je trouve que le film de Street Fighter est un film de G.I. Joe. C'est comme le film de G.I. Joe. C'est pas un film de Street Fighter, c'est un film de G.I. Joe.
Fait que, ouais, bref, c'est ça. Snake Eyes, peut-être qu'on en reparlera si tu le regardes un jour. Mais je ne le recommande pas. J'ai pas trouvé ça intéressant. Je me sens emmerdé.
Avant qu'on passe à nos films de la semaine, Alex, t'as parlé un peu de Snake Eyes. T'as vu aussi une autre grosse nouveauté du cinéma. T'as vu Jungle Cruise?
Oui, je l'ai vu. Là, c'est pas sorti encore. Donc, ça va entrer en connexion avec le film, un de mes films de la semaine. Mais j'ai vu Jungle Cruise hier, un nouveau film de Jome Colet-Serra, qui est assez bien vu comme tâcheron de studio. C'est comme un des... Parce qu'il a jamais fait des films... Il fait pas des films développés, mettons... Ce n'est pas un auteur, dans le sens qu'il fait pas... C'est pas comme un Wes Anderson, mettons.
Ouais.
Il fait tout le temps des produits de studio. Il a fait 3 Liam Neeson, je pense, ou 4.
Oui. 3 ou 4. Il a fait Honest Thief...
Non, c'est pas... Il a fait Non-Stop, il a fait The Commuter.
Ouais.
Puis il a fait Walk Among the Tombstones, mais celui-là avec Ed Harris, là, Drive All Night, là, All Night Long.
Il a fait The Shallows avec Blake Lively. J'avais trouvé bien sympathique.
Il a fait Orphan. Puis il a fait, je pense que d'après moi, je pense qu'il est mexicain ou en tout cas il est sud-américain. Puis il a fait un film, tu sais, dans son dans le, l'industrie natale d'où ce qui vient, qui a comme il l'a comme propulsé. Puis tu sais, moi je le trouve bien, mais j'ai peut-être pas l'admiration que certains ont pour lui là, comme. Mais j'ai pas vu Non-Stop, ça a l'air c'est le meilleur des Neeson qu'il a fait. Puis je l'ai pas vu. J'ai pas vu de Shallows non plus. Fait que bref, Jungle Cruise c'est avec The Rock et Emily Blunt et c'est pas du tout, en fait, un remake de African Queen, le film dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais la... c'est une adaptation d'un manège de Disney.
Oui.
Et le manège de Disney est adapté d'African Queen. Fait que, tu sais, c'est séparé de quelques...
degrés, oui.
Quelques degrés. Mais donc, c'est ça, c'est un film d'avant... C'est clair, là, tu sais, de par sa nature manégesque, que ce que Disney veut faire, c'est une nouvelle série de Pirates des Caraïbes. Ça le fait quand même. C'est efficace. C'est bien. Mais le problème... Tu sais, fait que The Rock joue un chauffeur de bateau, là, de riverboat, qui est engagé par Emily Blunt et son frère pour aller comme découvrir des ruines ancestrales de whatever, de conquistadors, puis... Emily Blunt a volé dans un musée une petite roche, là, genre c'est comme une. Ce qu'ils pensent qu'eux autres est une tête de flèche, là, mm-hmm. Mais finalement, ça va être autre chose, en tout cas. Puis il faut qu'il aille trouver ces ruines-là. Puis là, il y a un méchant allemand joué par Jesse Plemons qui veut les pogner.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, c'est un film d'aventure, de jungle, tu sais. En surface, très old school, là, très genre années 50-60, mais qui vite va aller dans d'autres zones, qui va devenir super surnaturel et plein de CGI, puis de gogos, puis de patentes, puis de style de lore par rapport. Puis je trouve que vraiment ce que j'ai trouvé très... Le maillon faible du film, c'est The Rock.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a comme pas rapport dans cet univers-là. Ça se passe en 1916... Il fait aucune tentative. T'sais, c'est pas d'être genre un tout croche sous long, genre. Parce qu'il est basé sur un personnage joué par Humphrey Bogart dans les années 50.
Mm-hmm.
Puis tu sais, il.
Grosse, ouais, un petit écart.
Il est écrit comme ça, mais il est pas. Il joue pas de même, il joue comme The Rock, tu sais. Là, éventuellement, là, je vais pas donner de spoiler. Puis en plus, vu que le film n'est pas sorti, je vais pas trop en parler, mais. Éventuellement, on explique un peu, tu sais. Je veux dire, il y a comme une raison pourquoi The Rock est comme ça, genre. Mais c'est pas une bonne affaire, puis c'est pas, tu sais, c'est pas du charisme, tu sais. Je commence à être tanné de The Rock, dans le fond. C'est ça que je me rends compte. Je trouve qu'il est très limité. Puis plus ça va, moins il s'adapte à ses projets, mais ses projets sont pas adaptés à lui non plus, tu sais. Fait que, tu sais, comme une star de... Mettons Will Ferrell. La majorité des films de Will Ferrell sont écrits pour Will Ferrell. Sont conçus pour que ce soit Will Ferrell qui les fasse. Et si Will Ferrell était pour tomber malade, ne pas pouvoir faire le film, serait remplacé par quelqu'un d'autre, il changerait les jokes.
Mm-hmm.
T'sais, il dirait, ah, ben là maintenant c'est Jack Black, t'sais, Jack Black ferait ce genre de joke-là. The Rock n'a pas tout le temps cette adaptation-là. T'sais, comme Jungle Cruise, ça aurait pu être n'importe qui dedans. Puis parce qu'ils ont mis The Rock, ça n'a juste pas rapport. Puis c'est ça le gros problème du film. Je trouve que ça gonne en esti pour un film. T'sais, un blockbuster américain de 2021, là.
Mm-hmm.
Puis, t'sais, ça se perd pas trop dans le lore, puis c'est assez... T'sais, il y a quasiment comme un concept un peu de screwball, t'sais, de film de comédie des années 30 et 40, où tout le monde parle très vite, ça parle
ouais,
par dessus.
Ouais, puis ça, c'est zip-zap-zoup. C'est ça. Ouais, la répartie, là, His Girl Friday, là.
Puis t'sais, ça, c'est bien rendu, mais le maillon faible encore, c'est The Rock. T'sais, lui, il est pas capable de faire ça, puis c'est... T'sais, c'est correct, là. Je pense que The Rock pourrait, tu sais... Moi, je suis quand même un fan de Rampage, un film que tout le monde haït.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est un film avec The Rock, tu sais. Puis c'est comme... Ça, il est parfait pour ce ton spécifique, un peu cartoonesque, là. Mais pour un zip-zap-zoup, tu sais, pour un... Son type de charisme extrêmement laborieux, je te dirais, fonctionne pas bien avec Jungle Cruise.
Mm-hmm.
Mais tout ça peut m'amener à parler de mon film de la semaine. C'est-à-dire... Oui. The African Queen, de 1951, de John Huston. parce que je l'ai regardé parce que je l'avais jamais vu et je m'en allais voir Jungle Cruise et j'étais comme, ben là, si je suis pour chialer abstraitement de dire que c'est comme African Queen, faudrait que j'aille vu African Queen. Je l'avais jamais vu, je sais pas pourquoi. Donc, la prémisse d'African Queen, ça se passe en Afrique en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Catherine Hepburn joue une missionnaire avec son frère qui vivent dans un village en Afrique et qui sont là pour prêcher la voix du bon Dieu aux villageois africains. Et Humphrey Bogart, c'est un chauffeur de bateau, c'est lui qui leur ramène des vivres, de l'eau et des affaires de même. Puis, à un moment donné, pendant que Humphrey Bogart est là, en fait, il y a une invasion des troupes allemandes qui viennent et capturent tous les villageois, tout ça. Pendant ce temps-là, le frère de Catherine Hepburn meurt, pas parce qu'il a été attaqué par les Allemands, mais bien, je me souviens pas, là, il y a une troupe de santé quelconque. Fait que Catherine Hepburn, tout seul, décide de se sauver, d'embarquer avec Humphrey Bogart et d'essayer de se sauver de là pour aller vers le Kenya. Les autres, ils appellent ça le Kenya et non pas le Kenya. Ben, c'est ça. Puis là, à mi-chemin, à peu près, dans leurs aventures, bon, là, tu sais, évidemment, ils tombent en amour. Puis à mi-chemin, ils comprennent qu'il y a un bateau allemand qui bloque la rivière. Donc, ils pourront pas se sauver à cause du bateau allemand. Fait que, dans un élan de passion et de, tu sais, on va mourir si on le fait pas, Catherine Hepburn conçoit d'une façon de prendre qu'est-ce qu'ils ont sur le bateau, ce qui est de la matière explosive, tout ça, faire des torpilles et faire sauter le bateau. Puis, tu sais, dans le pire des cas, eux meurent aussi, mais au moins, tu sais, ils vont avoir tué des Allemands, des méchants boches, et ainsi de suite. Tombe en amour, tout ça, c'est... tu sais, la majorité du film, c'est juste Humphrey Bogart puis Catherine Hepburn sur un bateau qui... Ben, tu sais, pour ces années-là, ils sont vieux, là, tu sais. Humphrey Bogart, il a 50 ans passé, puis elle doit avoir 45, là, mettons.
Ouais, fait en effet, pour des vedettes de cette époque-là, ben, ouais.
C'est ça, t'sais, Humphrey Bogart, il est mort 6 ans après ça, là. Fait que, tu sais, puis Catherine Hepburn est morte, genre, 100 ans après ça. Elle est morte très vieille, mais tu sais, puis elle est une femme de Dieu, puis lui, c'est un vieux Soulon, fait que, tu sais. Mais là, c'est un peu comme, bon, les circonstances font qu'on va tomber en amour, puis... immédiatement deviennent soudés là, en couple par tout ce qui se passe autour d'eux. Ce film-là est considéré comme un des grands classiques hollywoodiens de tous les temps. Et face à cette idée-là, j'ai été un peu déçu.
Mm-hmm.
C'est super bon, là. C'est vraiment bien, là. C'est super le fun. Mais c'est extrêmement léger. Puis c'est extrêmement... T'sais, tout ce qui est bon dans ce film-là est Humphrey Bogart et Catherine Hepburn qui se parlent. Tout ce qui est pas ça, tu vois que John Huston, tu sais, qui était un des grands réalisateurs hollywoodiens, puis ça, c'est supposé être un de ses grands films, mais tu vois que lui, il était chaud, puis ça y tentait pas, là. Tu sais, il y a beaucoup de séquences comme un peu d'action ou, tu sais, de péripéties qui sont super dolles, tu sais, puis c'est même pas parce que c'est 1951, là, tu sais, j'en ai vu plein des films de cette époque-là où c'est que, genre, c'est excitant, tu sais, puis c'est... Puis ça, je trouvais ça un peu dole parce que tu sais, c'est une comédie légère à la base. Mm-hmm. Puis on dirait que le film a de la misère à réconcilier ces deux parties-là, tu sais, la comédie légère, romantique, puis l'aspect plus aventure-action. John Huston, qui était un alcoolique notoire, est aussi obsédé avec la chasse. Il y a un film de Clint Eastwood qui s'appelle White Hunter Black Heart, qui est à propos d'un vieux réalisateur aigri qui est obsédé par... qui va tourner un film en Afrique et qui veut tuer un éléphant coûte que coûte, et que ça affecte le film, c'est basé sur le tournage d'African Queen. Puis tu sais, en regardant ça, j'étais comme, ah ouais, hein, je comprends, il y a des affaires où je suis même pas sûr que John Huston était présent pour ça, quelqu'un d'autre l'a fait, là, tu sais. Mais tu sais, pour ça, c'est ça, Humphrey Bogart a gagné un Oscar pour ça, c'est son seul Oscar pour ce film-là. Puis Catherine Hepburn a dû être nominée, tu sais, Catherine Hepburn, je pense c'est elle qui a le plus de nominations avant où Meryl Streep lui a chopé ça récemment, là. Puis, tu sais, les deux sont vraiment fucking bons. T'sais, tu comprends le concept de qu'est-ce que c'est une star de cinéma, là, tu sais. Quelqu'un qui est parfait à faire quelques affaires, tu sais. Pas toutes les affaires du monde. Mais, tu sais, tu regardes ça puis tu fais, tu sais, contrairement, mettons, à Jungle Cruise, ce film-là peut pas exister si c'est pas Humphrey Bogart puis Catherine Hepburn qui jouent dedans. Ce film-là est fait pour eux autres. Tu sais, ils vivent ces rôles-là. Ils sont parfaits dans ces rôles-là. Mais le film... T'sais, même pas, je dirais même pas que ça a mal vieilli, là, t'sais, parce que genre, je regardais des films de 1938 t'sais, qui sont justement plus zip-zap-zup puis qui gaulent plus que ça, je trouve que c'est un petit peu lousse. Puis c'est considéré un classique de parmi les classiques, je pense, pour quelques raisons, en partie, comme j'ai dit, les performances puis leur relation, puis aussi la direction photo de Jack Cardiff, qui est extrêmement détaillé, t'sais, super détaillé pour un... Tu sais, c'est un des rares films de cette époque-là qui était tourné en Afrique pour vrai, là.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est comme 50-50. Il y a beaucoup d'affaires de pas de green screen, mais de rear projection. Tu sais, sur le bateau, où ce que tu vois que c'est clair que c'est dans un studio, puis on, c'est un faux... Mais il y a des vraies affaires en Afrique, c'est très détaillé, c'est super beau, c'est le fun, tu sais. C'est iconique, là, tu sais. C'est un peu genre... Quand on regardait des cartoons quand on était jeune, puis ils dessinaient une jungle, puis un bateau dans la jungle, puis tu sais...
C'est ça, là.
C'est ça, tu sais, c'est vraiment iconique. Puis des fois, le problème avec des affaires qui sont iconiques, des icônes, c'est qu'on peut pas vraiment être surprise par elles, tu sais. On est trop... Ils font trop partie du paysage. Ça a été un peu ça pour moi, je te dirais. Mais c'est le fun, là. C'est super bon. Puis moi, je l'ai pas regardé en streaming, mais il s'en vient sur Criterion au mois d'août.
Okay.
Ah, ben, parce qu'il va avoir une grosse rétrospective de John Huston dans quelques jours. Là. Mm-hmm. Puis African Queen en fait partie.
Ben, j'ai hâte de le voir. Ben, justement, tu parles d'affaires iconiques. C'est un peu ça qui est arrivé, moi, quand j'ai vu The Maltese Falcon.
Ouais.
Qui est aussi John Huston.
Mm-hmm.
Puis qui est aussi Humphrey Bogart dedans. Mais tu sais, moi, j'avais lu le roman premier de Dashiell Hammett. Mais, tu sais, quand on regarde ça, c'est comme, ah, OK, ouais, tout est là. Mm-hmm. C'est comme toutes des affaires iconiques, justement, que tu as vues en parodie dans Looney Tunes ou dans mille affaires de suite. Puis tu es comme, OK, ceci est vraiment bon et puissant, mais en fait, comme tu dis, tu peux pas être surpris par ça. Là.
Mais tu sais, en même temps, il y a, mettons, Casablanca, en restant seulement dans des films de Humphrey Bogart. Là.
Oui, oui.
Tu sais, Casablanca, je trouve que c'est extrêmement riche et c'est extrêmement... Tu sais, je l'ai vu, je sais pas, 10 fois, là, peut-être. Là. Puis à toutes les fois que je le regarde, je suis comme... Hey, c'est crissement bon. Là. C'est pas pour rien que le monde il tombe des nues pour ce film-là. Là.
Ben, ça, je pense...
Parce que c'est fucking bon.
Oui, c'est fucking bon, mais je pense que il y a plein d'affaires, mais le scénario, il est thick.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a comme... Tu sais, il y a beaucoup... de twists, puis de personnages, puis de...
C'est dense, c'est le genre de film qui te tient pas par la main, hein, tu sais. Il se passe des affaires, puis tu sais pas trop, là. T'es comme, ouais, OK, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je sais pas c'est qui, lui, puis je sais pas de quoi il parle, mais tu sais, ça va sûrement devenir important plus tard, I guess. Mm-hmm. Puis, tu sais, African Queen est beaucoup plus simple que ça, dans cette mesure-là. C'est ça, un peu ça que j'ai constaté en le regardant, tu sais. C'est que c'est comme... Oui, c'est l'ancêtre d'un type de film. Là, en ce moment, en tête, j'ai genre Six Days, Seven Nights là, avec Harrison Ford puis Anne H.
Ouais, ouais.
Mais c'est pas nécessairement... C'est l'original de ces choses-là, mais c'est pas nécessairement le meilleur. T'sais. Souvent, des fois, le premier de faire quelque chose, c'est comme tout essaye de faire ça puis ils sont pas capables. Puis ça, je dirais que c'est pas ça. T'sais. C'est vraiment hâte de voir l'origine, là, t'sais, le blueprint là, quasiment de ça, mais... Je trouve que ça a été mieux fait par après, puis c'est correct. Là, ça enlève rien à son statut iconique et classique. Puis tout ça, mais je ne suis pas d'accord, mettons, que c'est un classique, un intouchable dans le fond, mm-hmm. du cinéma hollywoodien des années 50. Mais c'est quand même vraiment le fun et c'est vraiment plaisant. Tu ne perds pas ton temps à regarder ça. Là, mais bref, écoute, c'est ça.
Moi, excellent African Queen qui, justement, sera sur Criterion d'ici quelques jours. Alors, je serais curieux de le voir. Moi, je vais te parler de quelque chose qui est vraiment moins iconique. pour, bien sûr, mon projet de l'année, 2020 UN, où je décide de regarder tous les films de Corey Yuen, le directeur, le réalisateur chinois et aussi souvent chorégraphe d'action chinois. J'ai pu voir un de ses films qui j'ai trouvé sur YouTube. J'ai écrit Woman on the Run, full movie, et j'ai trouvé ce que je cherchais. Woman on the Run, qui est sorti en 1993, qui est un film, de ce que j'ai découvert, est un catégorie 3 en Chine, qui est un film 18 ans et plus.
Oui, oui, oui. Ça, j'ai... Je suis pas vite sur la Switch, là, mais je m'enligne pour regarder des films chinois pour qu'on puisse être sur la même page, là.
Mm-hmm.
Puis là, j'écoutais un podcast, Pure Cinema Podcast, qui a eu souvent... C'est le podcast du Beverly... New Beverly.
Ouais, le cinéma... le premier cinéma acheté par Quentin Tarantino ouais, à Los Angeles.
C'est ça. Puis, eux, ils ont parlé de ça cette semaine. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, hein, 4-3, tout ça. Là, je suis tombé dans un trou Wikipédia. Là, je cliquais sur des titres. Là, j'étais comme, wow! Puis... Mais ça, c'est facile de se perdre en esti, le cinéma chinois des années 80-90, là, ça y va en tabarnak, là, il y en a beaucoup des films. Là.
Ouais, ouais, il y a une expo là-bas, fait que, tu sais, c'est un film qui met en vedette, il y a Tamara Guo et Farini Chung Yuling, qui a un, c'est son nom maintenant, mais elle avait un autre nom dans le générique que j'ai vu. Regarde, ça met en vedette, ça s'appelle Woman of the Run, c'est deux femmes qui se retrouvent trahies par les hommes qu'elles aiment. Il y en a une, c'est une policière qui doit aller undercover, mais qui est trahie par son chum, qui est un autre policier marié. Et une autre qui est une jeune femme qui vient de la région et qui quitte, qui est une as du kung-fu, qui quitte la région pour être avec son chum qui... rapidement la met dans un bordel et fait d'elle une travailleuse du sexe un peu contre son gré. Il devient accro à la drogue et ces deux femmes-là se rencontrent et bref, pour pouvoir coincer un trafiquant de drogue, la policière doit être la partner de la prostituée, de la travailleuse du sexe et puis ensemble, ça devient un genre de body cop, ça devient un genre de Midnight Run, mais qui est extrêmement wacky et cartoonesque, mm-hmm. mais aussi extrêmement violent et trash.
OK.
Parce que ces femmes-là, à un moment donné, comme ils se font shipper au Canada, ils sont pognés comme à Vancouver tout seul, ils se font... ils endurent un viol collectif.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, ben, il m'a dit que je m'attendais pas à ça.
Ouais.
tu sais, qui est filmé avec la swing de caméra que Corey Yuen a dans ses batailles. Et ça non plus, je n'ai pas aimé ça, je te dirais.
Ouais, c'est pas. Ouais, ouais, je comprends.
Fait qu'il y a comme. Six affaires. Une scène où une des dames se bat nue. Fait qu'à la fin de la chorégraphie que Corey Yuen m'a habitué, mais la femme est nue en le faisant, c'est comme vraiment sick parce que tu sais, tu vois pas ça, un combat d'art martial avec une personne nue dedans. Ouais. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder? Fait que là, c'est là que j'ai pris. Tu sais, en regardant ça, après, j'ai googlé comme, c'est quoi ça, catégorie 3? Puis, c'est ça. Fait que c'est un film qui est vraiment trashy, qui ouais, est vraiment ouais. un film d'exploitation parce que tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, il y a beaucoup de. Je peux pas t'aider! J'ai besoin de prendre de drogue, sinon je suis en train de mourir. Puis j'ai comme, ouais. tu vas arrêter de prendre la drogue. Mais il y a une scène aussi où c'que une des filles se bat, l'autre, elle pogne une pipe d'opium. Et super fait, elle pogne une pipe d'opium. Puis là, c'est comme Popeye qui prend des épinards. Puis là, soudainement, elle peut fouetter ouais. tout le monde. Puis c'est sick. Mais aussi plus tard, il y a, comme j'ai mentionné, la scène où les deux héroïnes se font violer collectivement. Avant de se faire violer collectivement par des malabars canadiens, on les voit kicker un chien drette avant. Alors, tu le sais qu'ils sont méchants.
Oh boy,
ouais, c'est absolument... Comme d'habitude, les scènes d'action, encore là, Corey, t'avais pas besoin de go hard de même.
Mm-hmm.
C'est incroyable, c'est excellent. Le pacing, les il sait comment faire swinguer une caméra après un coup pour que les acteurs fassent une pause. C'est comme, ah, oh, Christ, tout le monde a l'air cool. C'est le meilleur. Mais le reste de ce film-là, c'est vraiment comme un six genres de drames différents, laids, que j'apprécie que quelqu'un les accordéonne tous ensemble dans le même emballage. C'est cool, mais j'ai vraiment pas aimé ça.
Ouais. Mais c'est comme, justement, quand je suis tombé dans mon wormhole de films de catégorie 3, il y a toute une série de films chinois des années 90 que c'est « raped by blablabla ». Tu sais, comme « raped by my boss »,« raped by a demon », rape, tu sais. Puis c'est comme tout le temps, c'est des « rape revenge », là, tu sais, dans le fond, c'est comme, tu sais, il y a un viol au début, puis là, la fille se venge. Mais j'étais comme, il y a une série de ça, genre, le monde allait au cinéma, puis il y avait une série de ça, comme des Halloween. Puis ça, c'est un peu whack, là, tu sais, genre...
Ouais, je te dirais que c'est pas quelque chose que... moi, j'ai besoin que ça fasse partie de mon divertissement.
Ouais, c'est
et
ça.
Et que quand ça s'est arrivé dans le film que je regardais, encore là, tu sais, il y a des affaires dans la direction artistique de Corey Yuen que j'aime beaucoup, tu sais. Du personnage qui se bat dans un environnement qui est comme fait avec plein de planches de bois, que les planches de bois peuvent exploser sur les coups, mais en même temps, tu sais, t'as comme des rayons de lumière qui paraissent super bien, qui sont très comme, tu sais, comme les beams de lumière dans Blood Simple. Là.
Pis, ouais.
Tu sais, t'as des beaux rayons comme de lumière à toutes les postes, mais il y a aussi cette direction artistique-là, encore comme j'ai parlé auparavant, je m'excuse de revenir à ça, dans la scène de viol collectif, je suis comme, pas sûr que ça devrait avoir cette direction artistique-là.
Ouais, j'ai regardé un film qui est similaire à ça, mais là, Lipstick de 1976, là, on n'a pas le temps d'en parler, c'est déjà un long épisode. Mais ça aussi, c'était un film où c'était comme, ah, tu sais, c'était un film d'empowerment de femmes. Voici une scène de viol tournée comme si c'était genre un film de Dario Argento. Puis là, on recontinue le film normal, tu sais. Puis là, après ça, c'est un drame légal. J'étais comme, hey, tu peux pas faire ces deux choses-là en même temps puis faire semblant que ça fit, là, tu sais.
Ouais, je veux dire, bravo la torque de le faire, mais je n'aime pas cela.
Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai regardé cette semaine, parlant de films qui sont trash et qui sont sales.
Oui.
J'ai regardé Vigilante de 1982 de William Lustig. William Lustig est un réalisateur qui a fait que des films un peu grindhouse exploitation. Mais c'est vraiment un connoisseur de ça parce que là, il est retraité de la réalisation. Il travaille maintenant pour Blue Underground. En fait, il a fondé le label Blue Underground qui était comme le premier dans l'époque. Là, maintenant, il y a beaucoup de ça, tu sais, des labels de DVD de boutique comme Vinegar Syndrome, mettons.
Arrow Video.
Video, c'est ça, tu sais, qui sortent des films rares de genre, tout ça. Mais Blue Underground, c'était comme le premier de ça. Mm-hmm. Fait que lui, ce gars-là, c'est vraiment un gars qui, tu sais, tout ce qu'il a fait, c'est du exploitation, mais t'as l'impression que c'est pas nécessairement genre j'ai fait du exploitation parce que on m'a offert ça puis je pouvais pas dire non parce que c'était de l'argent comme beaucoup de réalisateurs d'exploitation. Eh bien parce que lui il aimait vraiment ça. Fait que Vigilante c'est un film à la Death Wish, tu sais, c'est comme une distillation de tout ce qui s'est passé entre Death Wish et Vigilante. Fait que Death Wish c'est 74, Death Wish de Michael Winner, je sais pas si vous savez pas à la maison, c'est un film dans lequel Charles Bronson sa famille se fait tuer par des punks, genre dont Jeff Goldblum est une des personnes qui tue sa famille. Tu sais, des genres de malfrats de la rue. Et là, il disjoncte et il est très contre le crime et les malfrats et devient comme un genre de justicier.
Ouais.
Je crois d'ailleurs que le titre du film en français, c'est « Un justicier dans la ville
».
Donc, il prend la justice dans ses propres mains et tue du monde sans que la police... Tu sais, il devient « judge, jury and executioner », comme on dit. Vigilante, c'est avec Robert Forster, qu'on a vu dans Jackie Brown.
Oui, absolument.
Donc, je suis comme sur un petit trip de Robert Forster. Là. Je le trouve hot. Il est comme très normal comme acteur. Fait, c'est un acteur que relativement tôt dans sa vie, il a commencé à perdre ses cheveux puis il s'en calissait. Fait qu'il a tout le temps comme un bald spot. Puis il est un peu comme... Il est très bon pour incarner la personne normale, le monsieur normal. Le col bleu, tu sais,
il est vraiment écœurant, Jackie Brown.
Il
réchauffe et brise ton cœur dans exact. Jackie Brown. Que d'ailleurs, je m'apprête à lire le livre de Jackie Brown.
Ah ouais, Rum Punch. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, lui a une qualité particulière. Puis, tu sais, Robert Forster a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Mm-hmm. Il est décédé, ça fait quelques années, 2 ans, je pense.
Oui, ben son dernier rôle était dans El Camaro, El Camino. Qui est le film de Breaking Bad, parce qu'il y a eu un petit rôle très important dans la fin de Breaking Bad.
Puis, tu sais, c'est comme... Mais c'est un acteur qui a toujours travaillé puis qui a toujours travaillé dans pas mal d'affaires crap. Mais Vigilante joue un peu avec cette image-là qu'il avait. T'sais, il a aussi fait beaucoup de films, un peu d'exploitation, un petit peu... sans être parodie, mais tu sais, un peu qui savent qu'est-ce qu'ils sont. Là, il a fait, je sais pas si j'en ai parlé au show Alligator, c'est comme 2 ans avant. C'est comme une parodie de Jaws avec un alligator qui a été flushé. Pas une parodie, mais tu sais, comme
un Jaws-alike.
Un Jaws-alike où c'est un alligator qui est flushé dans une toilette. Un petit alligator qui devient vraiment un homme puis qui mange le monde. Fait que bref, Robert Forster joue un gars dans ça qui... il est ami à... Il travaille dans une shop, je pense qu'il est soudeur, là. Puis là, tu sais, il est ami avec les dudes de la shop. Puis les dudes de sa shop, dont Fred Williamson.
OK, ouais.
Qui est un des grands de la Blaxploitation, qui est aussi dans From Dusk Till Dawn, si vous avez vu From Dusk Till Dawn. Puis eux, ils ont comme un groupe de vigilantes. Eux autres, sont comme, ça va pas bien, il y a du crime partout, on n'est pas en sécurité. Fait qu'eux autres, ils patrouillent les rues avec les dudes de sa job, tout ça. Puis ils cherchent la marde, tu sais, ils cherchent à régler la marde s'il y a de la marde. Fait que là... il va... Il y a des doutes qui chantent, ça me dit, je suis distrait par les...
Cependant, ils chantent, c'est vraiment nice, mais c'est difficile à concentrer.
Ils chantent des sea shanties.
Ouais, ouais.
Son TikTok... En tout cas, eux autres, ils sont des vigilantes, ils veulent faire la justice. Puis là, Robert Forster, il est comme, non, genre, moi, ça m'intéresse pas partout. Genre, vous êtes weird, vous êtes fucked up de faire ça. Il y a une femme puis un enfant. Sa femme est jouée par Rutania Alda, qui est la sœur de Alan Alda. Fun fact. Et à un moment donné, sa femme est au garage en train de faire réparer son char. Et là, un groupe de malfrats arrive au garage et commence à terroriser le garagiste. Mais là, c'est vraiment un groupe de malfrats des années 80, là, genre, tu sais, multiracial. Ils ont tous 45 ans. Il y a genre, tu sais, il y a un noir qui ressemble à Miles Davis, tu sais, avec un genre de mullet droit, là, comme Miles Davis avait, genre, vers la fin de sa vie. Là. Mm-hmm. Il y a un latino, ou tu sais, whatever, là, genre un genre de gars habillé en Che Guevara.
Naturellement, ouais.
Il y a un punk, il y a une fille, genre avec pas de dents, tu sais, puis whatever. Puis là, il terrorise la garagiste, puis là, la femme de Robert Forster est comme, non, laisse-la tranquille. Là, ils sont comme, hostie, on va détruire ta vie. Ils vont chez eux, ils la poignardent, ils tirent son enfant au shotgun, le kid revole par la fenêtre.
Au tabarnak!
Là, ça, là, tu fais, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand Robert Forster arrive chez eux, ben Chris, sa femme, elle meurt pas, mais son enfant est mort. Puis là, il est comme, OK, finalement, ce que je veux faire, c'est, tu sais, avoir ma vengeance. Mais il se ramasse en prison à cause de ça. Fait que là, il y a toute une partie où Robert Forster est en prison, où est-ce qu'il devient comme un badass de prison. Puis, à l'extérieur, tu sais, comme le groupe de vigilantes se grandit d'importance. Okay, ouais. Parce que dans le fond, Robert Forster, c'est ça, il y a un procès, puis le gars qui a tué sa femme, qui est joué par Willie Colon, qui est genre un des grands chanteurs de salsa. Là, c'est vraiment weird. Tu sais, comme, mettons, au niveau de la salsa puis de la musique puertoricaine, mettons, New Yorican, qui appelle. C'est comme, tu sais, il y a trois personnes, là, puis lui, c'est comme le Bob Dylan, mettons, de la salsa. Puis il a fait deux films, puis un des films, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment whack. Mais bon, puis il perd. Fait que là, c'est pour ça que Robert Forster, il pète une coche, parce que, tu sais, la justice l'a pas servi. Puis bon, ben. Puis là, quand il sort de prison, il est comme, non, finalement, moi, je vais être un vigilante, puis on va aller tuer les deux qui ont tué ma femme. Puis c'est ça, le film. Fait que, tu sais, c'est un film qu'on a vu des centaines de milliers de fois avant. Et William Lustig le sait. C'est pour ça qu'il fait le film. Tu sais, il est comme, garde. Là, moi, je vais faire ce film-là, là, sans le fla-fla, je vais tout enlever, ça va juste être ça, là. Tu sais, c'est vraiment comme... Ce que j'apprécie de ce film-là, beaucoup de ce film-là, c'est que c'est vraiment comme quelqu'un qui regarde plein de films, puis là, il fait... Oh, je l'aurais pas fait de même. C'est comme si, c'est comme ça que je l'aurais fait, tu sais. Il n'y a pas de prétention de « Ah, c'est original » ou « C'est intéressant » ou « C'est comme un nouveau twist sur cette affaire-là. » C'est vraiment juste comme « Je vais tout enlever la merde que je trouve inutile. » T'sais. Puis Robert Forster est tellement bon. Puis il est tellement, tu sais, comme facile à croire dans ce rôle-là. Puis ce qui est le gros problème avec Death Wish, c'est que Charles Bronson, il est crissement badass et étrange. Fait que...
Oui, oui. Tu sais que dans Death Wish, on est supposé penser qu'il était comme plus...
Oui, il est comme un liberal, c'est un architecte, il est très genre gauchiste, mou, là, genre.
Ouais, que t'es supposé penser qu'un gars qui ressemble à Charles Bronson aimerait pas ça mettre ses mains autour du cou d'un criminel.
Exact. C'est pour ça que quand ils ont fait le remake, ils ont mis quelqu'un qui était pas comme ça, Bruce Willis.
Ouais, ouais.
Tu sais, fait du sens. Mais. Mais donc. On avait un gars qui faisait des patchs il y a une couple de semaines, là. Mais oui. On n'avait pas des marins sous. Ça, je pouvais pas. Fait que bref, tu sais, c'est très stylisé, c'est très suant, c'est très New York années 80. C'est super beau comment c'est tourné. T'sais, c'est vraiment... C'est sale, tu sais, c'est un film sous-intent sale, mais tu sais, c'est tourné par, je vais te dire le nom du directeur photo, c'est Jay Chataway. James Lemo, qui a aussi tourné beaucoup de films de Abel Ferrara, tu sais. Fait que, tu sais, lui, c'est, James Lemo, c'est comme le gars qui a inventé des affaires suants, puants, genre des... Tu sais, c'est comme...
C'est un de tes dudes.
C'est un de mes dudes. Fait que, tu sais, esthétiquement, c'est super, tu sais, ça l'a quasiment... Tu sais, comme on a déjà parlé, on l'a jamais fait, là, mais Streets of Fire de Walter Hill.
Ouais, ça, j'aimerais ça qu'on le fasse.
L'esthétique de ça, c'est comme... Ça aussi, c'est comme... Sans être un film aussi iconique que, mettons, African Queen, l'esthétique-là, tu l'as vu partout. Puis l'esthétique de Vigilante est extrêmement reconnaissable sans que tu aies vu le film, tu sais, sans que ça soit vraiment tiré là-dessus. C'est vraiment comme, justement, une distillation, tu sais. C'est comme une réduction de sauce, là, tu sais. Ouais. La sauce est rendue réduite. Pis c'est ça, tu sais. Je te dirais pas que ça a des choses particulièrement intelligentes à dire, hein? Mais, tu sais, comme ça dit la même affaire que tous les autres films de vengeance. Mais aussi, tu sais, c'est parfait. Le rythme est super, là. Des fois, c'est super lent, là. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, comme, mettons, Robert Forster, il arrive à sa shop, là. Puis tu le vois débarquer de son truck. Puis tu le vois lentement marcher en dedans. Là, tout le long, tu es comme, quelqu'un va l'attaquer. Mais c'est pas genre, bam, 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 bam. Tu sais, t'es juste comme, pourquoi ça, c'est là? Tu sais, fait que tu restes tout le temps un peu, genre, nerveux, un peu comme, tu sais, mal à l'aise, là, de ce qui se passe. Je ne suis pas pour la justice de Vigilante, là. Genre, je pense pas que tu devrais tuer du monde juste parce que t'as décidé qu'il devrait mourir. Mais...
Ça reste quelque chose de super satisfaisant à voir.
Exact.
En histoire.
Puis c'est satisfaisant dans ce film-là, particulièrement avec justement le. Tu sais, parce qu'il y a un film que j'aime vraiment pas, c'est Harry Brown avec Michael Caine.
Oui, oui.
Que ça, c'est un vieux britannique. Mais ça, tu sais, comme la morale de ce film-là, c'est la même affaire, là, c'est un Death Wish, là, quelqu'un de sa famille. Mais là, tout le monde qui tue sont jeunes, puis sont noirs, puis sont comme. Tu sais, l'Angleterre, ça devrait pas être de même.
I don't recognize England anymore.
Ouais, c'est ça. Puis cette shit-là, c'est non, c'est pas ça. Mais ça, tu sais. Robert Forster, dans ça, c'est comme... Ben, il se bat contre un gang multiethnique qui ont le même âge que lui. Des jeunes punks de 50 ans. Tu sais, fait que, genre, il y a quelque chose de comme... Vaguement...
Moins pire.
Ouais, mais ben, vaguement moins réaliste. Tu sais, même si les émotions pis tout est réaliste, tu sais, ça reste un peu comme dans le domaine de la fantasy.
Mm-hmm.
Puis il y a ça qui... Ça, c'est bien, tu sais. Fait que c'est... Je le recommande, quand même. C'est vraiment intéressant, tu sais. C'est un des barreaux de Robert Forster. Encore là, je vais te dire, j'en ai parlé, je pense. Maintenant, quand je vois une star puis on voit son pénis dans un film, je le dis au show, au cas où que le quiz en revient puis quelqu'un nous écoute vraiment assidûment. Donc, dans Vigilante, on voit le pénis de Robert Forster.
Oh là là!
Donc, on le voit pas en long et en large, là, mais tu sais, on voit son pénis. Hein.
On le voit un petit peu. Alors, ben, ça, c'est bon. Tu l'as vu où?
Il est sur Shudder.
Shudder, OK, oui.
Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu sur Shudder, mais il est présent sur Shudder.
Très cool. Là-dessus, je pense qu'on va passer à notre film de la semaine.
On devrait avant qu'il soit le lendemain. Ça fait longtemps qu'on est assis ici.
Oui,
ça fait longtemps
qu'on est assis ici. Alors, on va passer maintenant au film de cette semaine. La semaine passée, on a vu Notting Hill. Et ça nous a amené, bien sûr, à un double pont. Oui. À un deux liens qui nous a amené, bien sûr, à Bridget Jones Diary, qui est réalisé par Sharon Maguire, mais qui est aussi qui met en vedette Hugh Grant, qui est notre pont pour le film de cette semaine, mais qui est la titulaire Bridget, qui est Renée Zellweger, Colin Firth, et le scénario est bien sûr co-écrit par bien des gens, dont Richard Curtis. Et. Bref, il y a plusieurs personnes.
C'est Richard Curtis, Andrew Davies, puis Helen Fielding. Helen Fielding étant l'autrice
du livre original. Exact, ouais. Tu sais, le résumé de Letterboxd, c'est comme deux lignes, mais tu sais, c'est comme Bridget Jones, qui est décrit comme étant chaotique, rencontre un avocat qui est un peu un snob, et puis elle s'amourache de son propre boss à sa job, qui est très lupin, qui est un loup. Joué par Hugh Grant. Et c'est essentiellement juste ça. quand le film commence, Bridget Jones est au début de l'année, puis là, elle dit « Cette année, je change, je vais essayer de boire moins, de fumer moins, de me trouver un homme, de perdre du poids. » Et on la suit dans cette aventure-là. Elle tombe en amour justement avec son boss. Elle rencontre Colin Firth, que ça passe ici et là. On la voit chiller avec ses amis. La misère à arrêter de boire et arrêter de fumer. Elle continue. Elle décide de rentrer en relation avec son boss. Ça va bien, mais ça va pas super bien. Puis finalement...
Ben, il est très charmant, mais c'est un crosseur.
C'est un crosseur, tandis que l'avocat qu'elle rencontre est froid, mais il arrête pas de rentrer dans sa vie, mais il est mystérieux, puis elle veut rentrer dedans. Puis là, il s'intéresse à elle. Ça ressemble beaucoup à un genre d'histoire de cette époque-là. Je pense, je pense que le plus gros problème pour Bridget Jones, en fait, pour bien en parler, j'ai l'impression que j'aurais dû avoir lu le livre. Parce que le film qu'on a à faire est à son mieux. Les pirates sont d'accord derrière nous. Il est comme juste correct, mais amené ailleurs grâce aux trois performances principales qui font comme « Ah, ceci est agréable comme à voguer au travers. »
Ouais.
Mais sinon, tu sais, comme quand je l'ai écouté, je l'écoutais avec ma copine qui, elle avait lu le livre, puis elle disait comme « Ah, mais tu sais... » Parce que je trouvais que, question intrigue, c'était même très mince. Un des trucs principaux, c'est qu'elle pense quelque chose au sujet d'un gars, mais finalement, le gars a menti, puis c'est l'autre gars. Puis une fois qu'elle apprend ça, ça déborde beaucoup de l'intrigue.
Ouais.
Puis là, je disais comme « Ah... » Quand je voyais ça dans le film, j'étais comme « Ah, ça, je trouve que c'est une intrigue que... » qui est vraiment romanesque, mais qu'au cinéma, tu as besoin d'un peu plus que ça.
Mais moi, j'ai une question juste avant. Est-ce que le roman est écrit entièrement dans la forme d'un diary?
De ce que ma copine me dit, oui.
C'est ça.
C'est diary, puis c'est vraiment comme elle. Fait que, tu sais, elle te raconte constamment à quel point qu'elle fume puis qu'elle boit.
Ouais.
Fait que j'ai l'impression que... Fait que là, on aurait dû le lire, ou du moins avoir quelqu'un qui a lu le livre avec nous. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça doit rajouter beaucoup de texture ou de grit à son histoire que dans le film, on dirait qu'il peut pas se permettre d'avoir.
Ben c'est très difficile, tu sais. L'adaptation, parce que tu sais, fait que c'est ça. Elle écrit dans son diary à travers le film, dans son journal intime. Puis tu sais, on en a des bribes, des fois c'est de la narration, des fois on la voit littéralement écrire. Mais tu sais, c'est extrêmement difficile de transposer un récit à la première personne au cinéma de façon smooth, là, je te dirais. Parce que quand tu fais un récit à la première personne, tu ne sais que ce que cette personne-là sait, voit et comprend. T'sais. Mm-hmm. Tandis que justement, cet événement-là, où est-ce que tu sais, quelqu'un a menti puis finalement c'était le contraire, là, ben on le voit dans tu sais. On voit une image de ça, puis dès qu'on voit l'image de ça, on sait que c'est pas vrai. Genre, j'ai l'impression que la façon que c'est tourné, puis que c'est démontré, t'es comme « Ah, ça va s'avérer à être le contraire. » Parce que le langage cinématique nous a habitués à ça. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est la partie qui est la plus faible du film, c'est « The Bridget Jones Diary », c'est le journal intime.
Ouais.
Parce que là, éventuellement, en plus, le journal intime devient un plot point important dans le sens que quelqu'un le lit. Puis là, tu sais, il y a tous ces secrets qui sont étalés au grand jour. Puis ça, c'est aussi comme... Tu sais, comme... C'est extrêmement, genre, lourd, là, comme twist, là, tu sais. Comme ça traîne, elle traîne. Elle met tous ses secrets traînés dans un... Tu sais, il y a beaucoup de coïncidences un peu boboches là-dessus. Mais pour venir, genre, au film en général, moi, ce qui m'a frappé en le regardant, c'est vraiment à quel point ce film-là... Le livre et le film ont été extrêmement influents sur qu'est-ce qui est venu par après.
Ouais. Un peu, on parlait d'African Queen tantôt, tu sais, il y a comme un aspect de ça qui est comme, là, à cette heure qu'on écoute Bridget Jones, c'est comme plus surprenant, tu sais.
Ouais. Tu sais, puis, mais ne serait-ce que, tu sais, genre, il y a du monde maintenant, là, tu sais, qui existe, là, je vais dire des femmes, là, spécifiquement, qui écrivent des livres, mettons, ou qui ont une tribune quelconque, qui avaient genre peut-être 5 ans quand Bridget Jones est sortie, puis qui font toutes les mêmes affaires que dans Bridget Jones. Tu sais, fait que je peux même pas dire que c'est comme copié, là. Ça fait partie de l'éther. Tu sais, ça se respire, là, le personnage, là, tu sais, le I'm baby, là, genre, tu sais, ouais. comme, ah, genre, je suis pas capable, tu sais, je suis un peu tout croche, puis je suis ci, puis je suis ça, puis c'est aussi dur, le dating, tu sais, puis maintenant, il y a Tinder qui est rentré là-dedans, puis tout ça, mais essentiellement, tu pourrais encore faire Bridget Jones's Diary maintenant, puis ça serait identique avec une fille qui est née en 2001, là, tu sais, qui est née l'année que le film est sorti.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, pour ça c'est une des affaires que j'ai comme aimé. C'est que c'est relativement universel, plus que d'autres... tu sais, plus que même Notting Hill, que je vais dire que Bridget Jones a souffert d'avoir été regardée aussi près de Notting Hill. Là.
Oui, oui, je suis 100% d'accord. Parce que tu vois des morceaux de Richard Curtis, tu ouais. vois la gang d'amis, tu vois... mais tu vois les intrigues avec les parents. Mais les intrigues avec les parents, ça, c'est très aussi... il y a des intrigues satellites aussi qui sont très Love Actually, tu sais,
ouais, ouais, ouais.
Tout ça. Mais oui... l'écouter proche de Notting Hill ne lui fait pas de faveur.
Parce que, tu sais, peu importe qu'est-ce que j'avais comme contrainte là, à Notting Hill, j'étais comme, oh, Chris, OK, ouais, tu sais. J'avais oublié que ça peut être... Tu sais, Notting Hill, ça ressemble... Tu sais, j'ai comparé à ça au cinéma de Mike Lee, là, la semaine passée. Puis c'était doublement évident quand je regardais ça. Tu sais, comme le groupe d'amis est tellement moins réaliste et tellement plus plaqué puis comme un peu, genre... quatre personnes qui seraient jamais amies réellement dans la vie, là, tu sais. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, je trouve que, comme le personnage de Bridget Jones, à l'époque, on voyait très peu ça dans un...
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, la comédie romantique, c'était toujours... Le underdog, c'était toujours le dude.
Mm-hmm.
C'est toujours ça, où tu sais, si la fille est underdog, elle l'est pas de cette façon-là, tu sais. Elle l'est pas parce qu'elle est indésirable ou parce qu'elle a des problèmes ou whatever. Puis là, tu sais, l'autre affaire, c'est de dire que Renée Zellweger dans ce film-là est indésirable. Ça me semble tiré par les cheveux en tabarnak.
Ouais, je sais. Je sais qu'il faut comprendre que tout le monde est beau au cinéma puis que là, elle est supposée être non glamorous, elle est supposée être comme pas belle.
Ouais.
Mais c'est comme, come on, les amis.
Ouais, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Puis, tu sais, c'est ça. Puis, c'est ça. Je pense qu'elle a pris du poids, genre, pour jouer dans ce film-là. Mais elle n'est pas tellement différente. Tu sais, je veux dire, elle a pris 10 livres, probablement. Tu sais, elle n'est pas tellement différente de ce qu'elle a de l'air dans les autres films où ce qu'elle est supposée d'être, tu sais.
Ouais. Elle
top a... canon, là, genre. Je veux dire, ça n'a pas rapport.
Je veux dire, elle a juste plus l'air comme d'une vraie personne.
Ouais. Mais encore. Mais, ouais. Donc, pour revenir, genre, un peu à la base là, du film, c'est que c'est ça, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis c'est beaucoup, tu sais, dans le quotidien de Bridget Jones. Puis ça, tu sais, je trouve que c'est quand même intéressant. Puis ça, c'était quand même rare à cette époque-là aussi. Tu sais, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. T'sais,
les taux sont encore là.
C'est ça, oui. C'est une grosse période de comédie romantique à cette époque-là aussi. Mais la comédie romantique était beaucoup plus, tu sais... Je veux dire, je comprends pourquoi le monde, ils ont soudainement tombé à terre, tombé des nues de Richard Curtis. Parce que ce qu'il fait là, c'est réaliste comparé à ce qui se passait juste un peu avant, tu sais.
Ouais.
Tu sais, des films de, je sais pas trop, le Sarah Michelle Gellar ou whatever, tu sais, des affaires un peu... Tu sais, c'est l'époque juste un peu post, là, tu sais, Freddie Prinze Jr. Puis, tu sais, des
comédies... Ouais, plus. De fin 90, que là, il y a comme une recrudescence de... ados au cinéma qui passent par, mettons, par l'horreur, par les screams, mais aussi par des comédies romantiques puis des comédies wacky à la Dude, Where's My Car? Mais là, c'est comme... On refait des films sur des ados en ce moment.
C'est ça. Fait que, tu sais, comparé à ça, Bridget Jones, c'est comme, oh, un film pour les adultes, tu sais. Puis, sur ça, je trouve que c'est pas... C'est bien fait, là, tu sais, quand même. Genre, c'est relativement... J'ai toujours un problème avec comme le monde, les comédies romantiques qui sont comme cette personne-là est tout croche. Il a une maison puis une BM, mais tu sais, il se peigne pas avant d'aller travailler. C'est comment un tabarnak, là. Tu sais, je veux dire, ça a été néfaste, je pense, à la culture en général.
Ouais, mais, ouais.
Mais tu sais, il y a comme une bonne balance dans Bridget Jones quand même, là, je trouve, là, tu sais.
Ouais, chez eux, c'est tout de même raisonnable pour un appartement de cinéma.
Mm-hmm. T'sais, elle a un job. Elle travaille en édition, comme tous les personnages dans des films dans des comédies romantiques. Là. C'est un genre de playboy de l'édition. T'sais. Quand même très différent de son personnage de Notting Hill.
Ouais, j'étais vraiment impressionné de à quel point qu'il est tellement pur dans Notting Hill, puis pur frippé. Il est pur, mais il est frippé en même temps. Il y a ouais. Des là-dedans, il est... La silhouette de ses cheveux est changée. Puis, il est vraiment comme un motherfucker. Puis ça, ce qui est bien, il est vraiment un motherfucker désagréable, mais en même temps, tu comprends comment Bridget Jones est séduite.
Ouais, ouais, ouais.
Tu comprends comment que ce gars-là, il est le big deal du bureau, il est comme cool, exact. Il est comme ci, il est comme ça. Tu comprends pourquoi qu'elle flanche, tu sais, pour lui. Mm-hmm. Mais en même temps, tu vois qu'il est sale. Puis, être capable qu'un acteur puisse montrer ses cartes en même temps, mais que tu comprends que un autre personnage ne voit pas les cartes, c'est tout de même une grosse performance, c'est un gros move. Puis c'est ça aussi, tu sais, Renée Zellweger a fait que t'es de son bord immédiatement tout le long, puis que tu crois en elle, puis t'es comme, ah, Bridget, tu peux faire mieux.
Mais c'est ça, tu sais, l'affaire, c'est que Renée Zellweger, elle vient du Texas. Tu sais, elle joue un personnage extrêmement british. Puis, tous les signes pointent à ce que ça devrait pas être Renée Zellweger qui joue dans ce film-là. Tu sais, c'est à ça que je pensais en le regardant. J'étais comme, elle vient du Texas. Elle est supposée d'être, tu sais, comme plus normale que Renée Zellweger, tu sais, qui est pas normale.
C'est une belle dame d'Hollywood. Ouais,
c'est ça. Puis, c'est vraiment une preuve d'à quel point elle est bonne. Que ça dérange aucunement le film. T'sais, le film a d'autres problèmes, c'est pas ça les problèmes du film. T'sais. Parce que justement, t'sais, c'est comme. Il y a aussi comme du début de comédie de malaise. Là, t'sais, genre, elle va à des parties puis elle est mal à l'aise. Puis ça, je trouve, c'est pas tant bien accompli. T'sais, c'est un peu fade. Comme...
Non, il se cante zéro sur le malaise.
C'est ça.
C'est très peu malaisant en fait.
Genre, une des grosses scènes de malaise, c'est qu'elle voit Salman Rushdie dans un affaire. Puis là, elle est comme, ah, Salman Rushdie, sont où les toilettes? Puis t'es comme... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui agissent comme si Bridget Jones, c'est genre un fantôme sorti des tripes de la Terre. Là. Quand en réalité, tu sais, c'est genre personne... Tu sais, le film travaille beaucoup pour nous faire penser qu'elle est malaisante, puis qu'elle est weird, puis qu'elle est awkward, puis elle l'est pas tant que ça, tu sais.
Non, non, absolument pas. Et... Je veux dire, si tu voyais comme une belle personne de même avec awkward, tu serais comme... C'est weird, qu'elle soit awkward de même. Mais sinon, tu t'en sacres, ouais, là, ça marche pas, là.
Tu sais, c'est ça. J'ai pas super cru à ça, mais ça a aussi, je pense, beaucoup rapport... Justement, le film a pas beaucoup de texture organique. Tu sais, moi, j'ai un des problèmes, puis une des raisons pourquoi je regardais pas beaucoup de comédies romantiques à cette époque-là, tu sais, c'est pas parce que j'aime pas les comédies romantiques, c'est que les comédies romantiques de cette époque-là me semblent super comme, tu sais, plastiques. Tu sais, comme je sais que You've Got Mail, c'est un film que tout le monde adore. Hein. Mm-hmm. Moi, je l'ai pas vu à l'époque, puis quand je l'ai écouté par après, j'étais comme, tu sais, c'est cute, mais c'est comme. Il y a rien de ça qui a l'air vrai, tu sais, ça a l'air d'une annonce de yogourt. Puis Bridget Jones a aussi un peu ce problème-là, tu sais. C'est très précieux et honté. Tout est éclairé, flat.
Ouais, c'est très précieux aussi, 2000, de « on va dans un bar funky ». On est funky pareil. On n'est pas comme nos parents.
Ouais.
Puis là, je suis comme... Puis que ça l'essaye un petit peu trop d'être ça. Là.
Mm-hmm.
Comme j'ai mentionné dans la review Letterboxd, pendant que j'étais dans l'Abitibi, j'ai vu Miss Météo.
Oui.
Le film québécois Miss Météo. Et j'ai trouvé ça assez...
Écrit par Nathalie Petrovski,
oui,
ma best.
Ta best, oui. Puis moi, j'ai trouvé ça absolument terrible. Anne-Marie Cadieux faisait Atlas qui soulève la Terre. Anne-Marie Cadieux essaie de porter cette patente-là. Mais c'était essentiellement Bridget Jones. C'est comme genre des mules de Bridget Jones, vraiment.
Puis c'est pas genre un... C'est un spin-off de Maman Lascaux, right?
Ouais, du livre, tout ça. Puis...
Mais du film de Maman Lascaux. Mais ça, Anne-Marie Cadieux, juste personnage dans Maman Lascaux.
Ah ouais? En plus, j'ai pas vu Maman Lascaux. Je sais que, en fait, le film Miss Météo est comme un genre de téléfilm qui est mis... qui a suivi une série par exemple. En tout cas, c'est terrible. Puis, il y a un genre de... Il y a un sentiment, une vibe d'année 2000, mi-2000 là-dedans, qui est vraiment particulier, que j'ai la misère à mettre mon doigt dessus de... pense que c'est ça que tu sais quand je vais dire comme hey, on n'est pas comme nos parents, on ouais. est plus vieux puis on peut aller dans un bar funky puis faire des affaires puis ne pas être rangé, c'est fou, n'est-ce pas? Puis ça, cette attitude là maintenant, je suis comme OK, il y a plein de monde de même, calme-toi, ouais, ouais, calice. Ouais, ouais. Mais de prôner ça puis d'être spécial, on dirait que c'est une affaire que tu sais, fallait être là. C'est ouais, dans ce ouais, moment-là ouais. que ça fonctionne. Bridget Jones a un peu de ça, c'est moins pire, bien sûr, que Miss Météo. Mais il y a. C'est ça, c'est très difficile. La façon dont on en parle, je pense qu'on a l'air de vraiment, comme peut-être, d'avoir moins aimé ça ou peu importe. T'sais, moi, j'en ai dit comme 3 étoiles, mais c'est surtout pour les acteurs,
ouais.
les actrices qui ont fait. Puis il y a des affaires qui sont bien, parce que. Mais ultimement, si c'est pas ces acteurs-là, cette affaire-là, c'est ouais. château de cartes à
exact,
sens défait.
Exact. T'sais, moi aussi, j'ai donné 3 étoiles. Puis, tu sais, je pense que c'est comme bien. Tu sais, j'ai eu du plaisir à le regarder. Puis, aussi, tu sais, comme relativement à ce qui est venu par après, tu sais, la foulée de Bridget Jones, c'est très bien.
Mm-hmm.
Tu sais, comme il y a eu beaucoup, beaucoup de marde. Il continue d'avoir des affaires de marde. T'sais, qui sont, là, ça a un peu migré vers Netflix puis les films Hallmark, là. Mais qui sont essentiellement ça, genre, je suis tout croche, je ne sais pas c'est quoi ma vie, tu sais. Puis, genre, l'affaire, c'est que Bridget Jones n'est pas si tout croche que ça, là.
Non,
elle est tout croche selon... C'est très boomer de la trouver tout croche, dans le fond. C'est ça que...
Ouais, je pense que t'as mis le doigt là-dessus, parce que, regarde, Richard Curtis, un gentleman tout de même plus âgé, pareil.
Ouais, puis aussi, l'autrice, elle est née comme en... Elle a comme l'âge à mon père, là, genre. 58,
non. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que t'as vraiment mis le doigt là-dessus. C'est croche pour un boomer, pour une personne vraiment plus vieille. Mais nous, on est comme, hé, eh, elle se débrouille.
Ça va très bien, moi, je trouve. Ça... Tu sais, là, c'est genre, j'ai 32 ans, puis j'ai pas de chum. OK. Genre, ça va être correct, là, je pense, là, t'as une job, esti, t'es capable, tu sais, il y a ça, ça, c'est une affaire qui a changé radicalement, tu sais, étrangement, c'est quand même aussi une affaire sur laquelle les comédies romantiques sont encore basées, tu sais, comme la réussite capitaliste, puis le white picket fence, puis un mari qui est normal, puis 2 enfants, puis tout ça, tu sais, ça se peut, il y a du monde qui ont ça, là. Il y a du monde en esti qui ont quelque chose qui ressemble à ça puis qui se mentent que c'est ça. Puis tu sais, il y a... je pense pas que Bridget Jones existe tant dans un monde de fantasy que ça. Tu sais, c'est pas traité de façon réaliste, mais ce qui se passe est réaliste. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas tiré par les cheveux. On a presque pas parlé de Colin Firth.
Ouais. Ben parce qu'il fait comme... Il est vraiment sur les marges du film pour la plupart. Il est comme un genre de... Sérieux? Quand il y a la voix pour les premières fois, il fait un peu ce que Robert Pattinson a fait fois 100 dans le premier film de Twilight.
Ouais.
Avec Kristen Stewart. Il est comme balayé, comme « Oh! Ah! » Comme, je sais pas c'est quoi sentir la puanteur, mais je source une inspiration dans ce que Robert Pattinson a dans le premier Twilight. Il est comme dégoûté, il est comme « Ah! » Il fait ce que Colin Firth fait un peu au début. Il est comme médusé, il sait pas ce qui se passe, il est comme, qui es-tu cette personne? Mais là, plus tard, il...
Mais tu sais, ça, c'est une affaire un peu british de classe, là. T'sais, lui, il est supposé d'être upper class, tu sais, il est habitué de parler à des avocats pis du monde. Mais, c'est pas tant plausible non plus. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais, Colin Firth, à cette époque-là, t'es pas mal moins connu.
Mm-hmm.
Tu sais, pis il était connu surtout en Angleterre, pis il avait fait Pride and Prejudice
ouais.
à BBC, right?
Oui, oui.
Puis, où est-ce qu'il jouait Mr. Darcy, qui est aussi son nom dans ce film-là.
Ouais, ouais. Puis ça, c'est... Puis tu sais, ça, c'est... c'était genre en 95.
Ouais, exact.
Puis, tu sais, ça reste comme... À télévision britannique, qui font... qui en font une poche puis une pelle de qui s'appelle des drames d'époque.
Mm-hmm.
Ça reste... le plus grand drame d'époque de la télévision britannique.
C'est ça. T'sais, lui, il a une passe à vie, là.
Oui, il y a une passe à vie en Angleterre. Puis, tu sais, comme personne n'a vraiment touché Pride and Prejudice au cinéma depuis...
Ah, Joe Wright l'a fait.
Ah oui.
C'est bon. Il est quand même bon, là. Tu sais, c'est très Joe Wright, là. C'est comme... Tout est sur des rails, là. Il y a tout le temps... Puis, mais sauf que dans ça, le Mr. Darcy, c'est Matthew McFadden de Succession, là. qui dans Succession joue tellement le contraire de ça. Tu sais que c'est un esti de bon acteur. Parce que Colin Firth, il a jamais joué le contraire absolu de... Tu sais, Colin Firth est tombé un peu dans un carcan, mais il est bon, là. Tu sais, moi, je trouve bon Colin Firth. Puis, tu sais, il représente ce genre d'affaire-là très bien, là, tu sais, comme ce genre de dude un peu pogné, mais pas trop, tu sais.
Pogné, classique, mais qui il bouillonne avec un bon fond, mais il n'est pas encore été capable de l'exprimer, tu sais.
Ouais, mais moi, je pense que la pire scène du film, c'est malheureusement lui qui l'a. C'est la scène où ce que on l'a vu deux fois, puis là, il rencontre Bridget dans un party de... Où est-ce qu'elle est habillée, genre, en lapin, en Playboy Bunny, là.
Ouais. Le pis, Vicar and Tarts party.
Ouais, Tarts and Vickers party. Puis là, il dit comme, genre, « tu sais, moi, je t'aime comme t'es, genre. » Puis, c'est supposé être un moment super, comme, émotionnel, tout ça. Mais ils se sont à peine vus.
Ouais.
Je trouve que ça, c'est vraiment pas... Il l'a pas gagné, ce moment-là. Le film a pas travaillé envers ce moment-là. Pis...
Ben, c'est ça que je trouvais que c'était comme... Ah, là, j'imagine que... Ben, je trouve que ça marche pas, mais je suis comme... Ah, c'est-tu un aspect fantaisiste d'une histoire d'une personne qui t'a vu deux fois, que tu trouves cute, apparaît une troisième fois, faire comme... Moi, je t'aime comme tu t'es. C'est
ouais, mais partie de la fantaisie. À quel point tu mettrais du poids dans ce qu'ils disent? T'es comme je suis, mais tu connais rien. Tu m'as vu deux fois. Tu sais... Mm-hmm. Ce serait vaguement whack, non? Ouais, tu sais, cette scène-là, je trouve, tu sais, c'est une scène clé du film, malheureusement. Mais je trouve que de la façon qu'elle est, elle est présentée par le film, c'est pas tant bon. Non, c'est un peu lazy, là.
Oui,
c'est pas...
surtout, ben, on dirait que c'est un. Tu sais, j'imagine que ça a le plus de sens, peut-être, dans le livre, mais là, ça sort un peu de nulle part, puis ça marche pas aussi bien.
Ouais, exact. Mais tu sais, en tout cas, quand même, je trouve que, tu sais, pour une comédie romantique de cette époque-là, c'est quand même bien. Tu sais, Notting Hill a vraiment, tu sais, moi, j'étais pas tant sûr, j'étais pas autant obnubilé devant Notting Hill que toi puis Nicolas la semaine passée, mais regardez, Bridget Jones m'a comme fait kick-up Notting Hill d'une demi-étoile, là, parce que j'étais comme... Ah ouais, Notting Hill, si comparé à ça, c'est vraiment genre du gros stock, là.
Ouais.
Puis ça, c'est comme du medium stock, là. Tu sais, c'est... Ça a été vraiment important, je pense, là, pour la culture en général. Je pense que ça l'a... Tu sais, c'est un film important.
Mm-hmm.
Tout comme African Queen est un film important. Mais, tu sais, je veux dire, mettons Trainwreck avec Amy Schumer de Judd Apatow est essentiellement un Bridget Jones.
Ouais.
Puis, je dirais pas que c'est meilleur, mais c'est pareil, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, fait que à un moment donné, si on parle de 15 ans plus tard, puis on est encore à pas mal au même endroit. Fait que, tu sais, ça a été important, mais en même temps, c'est comme... Tu sais, il y a une limite à où est-ce que ça peut aller, je pense.
Ouais. Ben, regarde là-dessus. Tu sais, je pense ça. Si vous êtes curieux, allez-y, mais on... C'est pas une recommandation dorée, là, mais...
Non, c'est ça. Mais, tu sais... C'est vraiment facile à regarder, c'est le fun. Là. Tu te casses pas le basic avec ça. Ça m'a donné le goût de regarder plus de comédies romantiques de cette époque-là que j'ai pas vu, même si c'était... Notting Hill m'a pas donné ce goût-là. Je vais donner ça à ce film-là. Là. Notting Hill, c'était comme trop bon. J'étais comme, là, si je regarde d'autres comédies romantiques, ils vont être plus poches que ça. Tandis que là, j'étais comme, hey, je regarderais ça, moi, des 6 sur 10 sur un esti de temps.
Des fois, quelque chose de moins bon, ça donne le goût de voir comment que d'autres gens étirent la formule d'un autre sens.
Exact.
Puis ça, ça peut être excitant. Là, t'sais. Mais regarde, là-dessus, on va terminer cet épisode. La semaine prochaine, Renée Zellweger nous prend par la main et elle nous amène en Illinois, car on s'en va à Chicago.
Yes.
De Rob Marshall, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Rob Marshall?
Oui,
Rob Marshall. Et on n'y sera pas tout seul. On va être là. On va parler de Chicago avec Mathieu Bouillon, qui est un fantaisiste d'Internet, un improvisateur hors pair, qui est aussi un auteur, concepteur pub, un chic type, un gars super drôle. Fait que je pense que ça va être un bon épisode. En attendant qu'on parle de Chicago, Alex, les gens peuvent te trouver où?
ColtMontreal.com pour mon review de Snake Eyes susmentionné. Cette semaine, il va y avoir des reviews de Jungle Cruise. Il va y avoir un review de... Ben, les autres, c'est pas moi qui les fais, là, mais il va y avoir Stillwater. Puis ce matin, je suis arrivé en retard, j'étais embarré, j'ai pas pu aller voir The Green Knight, mais je vais essayer de aller le voir. Ça avait l'air bon en plus, mais en tout cas, bref. Oui, commentreal.com pour les reviews. Why does it exist sur Instagram et Letterboxd. J'ai presque fini les jams de la pandémie, là.
Oh yeah!
Il me reste deux sections. Fait que là, dans une journée, je fais juste alterner Neil Young puis un autre artiste. Ça fait deux jours que c'est ça. Aussi sur Twitter, Alex Rose avec deux petits barres en dessous. Puis, je voudrais vous inviter à aller, si vous n'avez pas déjà liké, Alex lit le journal sur Facebook.
Oui!
Parce que là, c'était dormant, ça n'existait plus vraiment, je m'en occupais plus. Puis, quelqu'un, peut-être un auditeur, Paul-André Caron.
Oui, je crois que oui, c'est possible.
C'est possiblement un auditeur. Il a tagué Alex lit le journal sur une publication de catalogue QC.
Mm-hmm.
Qui est une page style Alex lit le journal, mais beaucoup plus populaire. Et là, ça l'a complètement jacké. J'ai eu plein de followers dans la même journée, là, genre, tu sais, un nombre considérable.
D'accord.
Fait que là, j'étais comme, bon, peut-être que je mette des choses sur Alex lit le journal. Fait qu'on remercie Paul-André Caron d'avoir fait ça.
Merci, Paul-André.
Fait que là, Alex lit le journal, pour le moment, va être à peu près à chaque jour, la semaine au moins, peut-être pas la fin de semaine, mais... Alex lit le journal, où est-ce que je lis des journaux et je sors souvent, c'est la majorité du temps des gros titres, mais des fois c'est des paragraphes, et je fais des blagouilles.
Oui, des très bonnes blagouilles. Pour ma part, c'est Adrianic Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Adrianic Belzile, sur Twitter ainsi que sur Letterboxd. N'oubliez pas aussi que, ben, ma foi, je fais pas de test. Ça s'appelle Trois-Bières qui sort à chaque vendredi, alors vous pouvez me suivre là. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et. Allez donc voir une vue.
Yeah! Les voyeurs.